La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Non, là-dessus, vous êtes en retard et vous avez le pied au niveau de la chaussure. Je n'en veux plus. C'est clair? Vous voulez un soin ou ça va aller? Vous voulez un soin?
Condamné. Oh là 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 là. C'est plus une pression, là, je suis déjà au pilotis.
Je vous ai dit, je vais pas me flageoler tout seul.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vous voulez un soir ou ça va aller?
Jusqu'à minuit, l'after-foot.
Thibaut Giangrande.
Prendrait bien un petit soin. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after, en direct 7 jours sur 7, jusqu'à minuit et 24 heures sur 24. En podcast, direct à la radio, direct sur YouTube également, la chaîne de l'after, @after-foot. Merci d'être là, déjà nombreux en ce jeudi soir, à 2 jours. Fin du grand début de l'Euro. L'équipe ce soir, Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
On est en direct jusqu'à minuit. Dans quelques instants, on poursuit notre feuilleton préféré du moment, les droits télé, avec Philippe Diallo qui a parlé aujourd'hui. On l'écoutera et on donnera notre avis. L'Euro, c'est dans 2 jours, je le disais. On sera en direct d'Allemagne ce soir avec Nicolas Pelletier, qui fait partie de l'équipe RMC sur place, qui vous fera vivre cet Euro. Il nous donnera les dernières infos, notamment aujourd'hui, on a parlé arbitrage avant le début de la compète. Pas mal de petites infos, de nouveautés que va nous présenter Nico. Et puis 22h30, on s'intéresse à l'équipe de France à 5 jours du premier match face à l'Autriche. Quelle animation offensive pour les Bleus. Vous nous appelez au 32-16 et vous venez en débattre avec Daniel, avec Kevin. L'Euro, il en sera question avec Xavier Barré, que vous connaissez dans l'After, journaliste qui sera là avec nous en fin d'heure. Il sera un guide de l'Euro, insolite et érudit. Pas mal de stats marrantes, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis, les chapeaux continuent, messieurs dames. À partir de 23h, venez jouer au directeur sportif avec l'After. Vous nous appelez au 32-16 et place ce soir au milieu de terrain. Et je vous le dis, il faut qu'on avance avant que l'Euro débute. Les 6, les 8 et les 10 au programme ce soir. Donc on va prendre le temps.
Les milieux de terrain en gros quoi.
Ce qu'on pourrait appeler les milieux de terrain.
Je pense. Oui.
Ouais, on pourrait l'appeler comme ça. Il est 22h02. Je vous rappelle également.
Les gauchers, les droitiers, les offensifs, les défensifs, les relayeurs, les box to box.
Ceux qui sont bons de la tête.
Les sentinelles.
Tout dans le même, dans le même chapeau.
Les créateurs.
On les met tous dans le même chapeau.
Les playmakers.
Il y en a d'autres ou pas?
On est en train là avec Kevin, on avance là.
Kevin, on n'a pas.
Toutes les expressions de milieu.
Les meneurs de jeu.
Ah, les meneurs de jeu.
Et les sentinelles. Ouais.
Les meneurs de jeu reculés.
Ouais. Ouais.
On les met aussi.
Les milieux récupérateurs.
Les milieux récupérateurs. Ouais.
On les a tous fait? S'il y en a qui vous viennent, n'hésitez pas d'ici là. En attendant, je vous rappelle que chaque jour RMC vous envoie en Allemagne pour assister à tous les matchs de l'équipe de France pour l'Euro 2024. On vous propose de vivre l'expérience RMC, le voyage à Düsseldorf, vol plus hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match et bien sûr vos 2 places pour France-Autriche le 17 juin. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant Euro par SMS au 732-16, Euro au 732-16. Bonne chance à tous. Et puis vous direz également que France-Autriche, donc c'est lundi prochain, le 17 juin, et à cette occasion, RMC débarque à Mâcon au stade Pierre Guérin. Rotten sans flamme et l'after seront dans la ville d'Antoine Griezmann en Bourgogne. Si vous voulez venir assister aux émissions Vivre le match avec Jérôme Rotten, avec Gilbert Bribois, avec Daniel Riolo, vous inscrivez là, hein, en envoyant un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr.
Entre 19h30 et 21h, on sera pas très loin du food truck.
Voilà, il y aura food truck, il y aura buffet, diffusion sur écran géant, ça va être une magnifique soirée à partager tous ensemble en direct de Mâcon lundi prochain. Il est 22h04. Si on ouvrait notre feuilleton quotidien des droits télé. Et aujourd'hui, rebondissement, la Fédé s'exprime. Son président, exactement, Philippe Diallo, était auditionné aujourd'hui.
Il s'est souvenu, c'est un mec qui est allé le voir ce matin, il fait « Vous êtes le président, monsieur. »
Ah, c'est moi?
Ah, moi, je veux parler, alors.
je crois qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Mm-hmm. Convoqué au Sénat par la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport sur la financiarisation du football et notamment l'arrivée de CVC, autre feuilleton enfin un peu lié, mais dont on a beaucoup parlé. On va écouter deux extraits de cette longue intervention concernant le feuilleton des droits télé, à commencer par le risque, selon Philippe Diallo, du dépôt de bilan pour certains clubs français.
Je pense qu'il faudra attendre l'issue de l'actuel appel d'offres sur les droits audiovisuels pour voir dans quelle situation se trouvent nos clubs. Nous avons eu trois années, les clubs ont bénéficié de l'apport de CVC. C'est désormais terminé. Un montant de droits qui ne serait pas en ligne avec les estimations qui ont pu être faites par la Ligue plongerait certainement un certain nombre de nos clubs dans des grandes difficultés. Si l'atterrissage de l'appel d'offres actuel n'était pas celui qu'on attend, bien évidemment que nous serions confrontés à des difficultés financières très importantes qui pourraient peut-être même amener certains à envisager des dépôts de bilan. Mais nous n'en sommes pas là.
Nous ne sommes pas là pour l'instant. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite? On écoute la deuxième partie.
Oh, on voit la deuxième partie.
La deuxième partie qui répond Philippe Diallo sur l'estimation nouvelle dont on a parlé ce week-end des 500 millions de Vincent Labrune. Donc il est interrogé sur ce nouveau montant annoncé par le président de la LFP. Écoutez, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot.
Je crois que ces propos, ils ont été peut-être pas très bien compris ou peut-être pas très bien relayés. Il me semble qu'il a indiqué que ces 500 millions qui ont été relayés par la presse sont la valorisation faite par un certain nombre de diffuseurs et un des principaux diffuseurs qui est Canal+, qui a donné cette valorisation, mais que ce n'est pas l'objectif de la Ligue qui a fixé d'autres objectifs plus importants, puisque les 500 millions qui sont évoqués là, d'autres diffuseurs, il y a déjà plusieurs mois, avaient déjà offert cette somme-là et qui a été refusée à l'époque par la Ligue. L'objectif de la Ligue, c'est un objectif plus important. Simplement, c'est la traduction aujourd'hui de diffuseurs qui estiment que le championnat est dans ce niveau de valorisation. Les droits, ils sont d'abord faits par le marché. La concurrence qui fait la valeur des droits.
Et voilà les gars, vous n'aviez rien compris, Daniel, Kevin. Vous n'avez rien compris.
Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris?
Ben voilà, les 500 millions, c'était pas l'annonce du prix recherché par Vincent Labrune, c'était l'annonce des diffuseurs, c'était le prix estimé par les diffuseurs, ce qui n'a rien à voir.
D'accord.
Hashtag ironie.
Si Kevin, il décide que sa bagnole... il m'en donnera, enfin, que ma bagnole, il m'en donnera jamais plus que 5000 balles. Bah, je peux danser autour de lui, ça va être compliqué s'il veut pas m'en donner plus, hein. Évidemment que c'est le diffuseur qui fixe le prix, c'est eux qui vont sortir l'oseille.
Non, mais
c'est eux qui l'ont valorisé. Et s'il y a un spécialiste des droits de télé depuis 40 ans maintenant, c'est quand même Canal qui sait un peu où il fout les pieds quand même, non?
Mais ce qui est fou en plus, c'est qu'il y a un sport qui est le rugby, qu'on connaît quand même bien aussi sur RMC, qu'on suit tous les week-ends. En tout cas, toi, Thibaut, quand il y a pas de lien,
tu peux pas obliger de mytho. Hein.
Non, mais Thibaut, il le suit.
Moi, je le suis. Ouais,
tu peux écouter ce que je dis.
Parfois.
et donc Thibaut, il le suit souvent le samedi quand il y a pas de Ligue 1. Et en fait, c'est simple. Ce qu'a fait la Ligue nationale de rugby, ou en tout cas la Ligue de rugby professionnelle avec Canal, c'est tout simplement ce que devait faire le foot. C'est-à-dire que eux, ils ont valorisé leurs produits à un prix qui est intéressant. Ils ont aujourd'hui le meilleur championnat quasiment au monde. Et ils ont en plus un diffuseur pour de longues années. Et donc, à partir de là, on sait que la Ligue 1, ça a été peut-être survendu à un moment. Et puis, il y a eu la claque avec Mediapro. Et aujourd'hui, en fait, le football français, il est dans une impasse. Et dans une impasse parce que, comme le disait Philippe Diallo, on a aujourd'hui des contrats qui sont non pas indexés sur les droits télé, mais qui sont indexés sur la valeur salariale des quatre grands championnats. Parce que je le dis, je le répète depuis que je suis dans l'after. Daniel, t'en as parlé la semaine dernière, tu disais, ouais, mais il y a des pays où ils ont pas de droits télé et ils se portent très bien.
Ils en ont, mais beaucoup moins.
Tu sais, c'est quoi les droits télé du championnat néerlandais? Dis-moi un prix. Pour tous les clubs.
30 000.
Attends, non, c'est moins de 100 millions et on doit être à 60 maintenant.
Non, on était à 90. Ah. 90, et là, je pense que ça doit approcher.
J'étais
peut-être
dans le vrai sur les moins de 100, mais
on est à 90 millions. On est à 90 millions pour l'ensemble des équipes.
Ouais, les 18, c'est ça, c'est 18.
Et, ouais, ils sont 18, ouais. Et par contre, il y a des droits aussi pour l'équipe. Il y a aussi la Ligue 2 qui a très peu de droits, mais qui en a aussi. Et donc aujourd'hui, bien sûr que tu peux travailler sans droit télé. Mais par contre, c'est un travail qui va être long, ne serait-ce que faire rentrer dans la tête des joueurs, dans la tête des entraîneurs, dans la tête des agents ou des conseillers que aujourd'hui le foot français vit au-dessus de ses moyens. Et c'est quand même, ça fait quand même plusieurs années qu'on le dit, puisque à partir du moment où déjà t'as une économie qui doit être viable, à partir du moment où t'arrives à vendre des joueurs, c'est que ta compétitivité elle est compliquée.
Oui, ben elle est compliquée. Ce que tu dis est très juste. Et je l'ai dit et t'as raison. Il y a quand même un point qu'il faut préciser, c'est que quand t'es habitué, quand t'as vécu avec ce genre de droit, t'es structuré pour. Quand tu as eu beaucoup de droits télé, que donc ton train de vie, ta structure de club, elle est construite avec plus de droits télé et que d'un coup, on ferme le robinet, là, il y a un paquet de clubs qui ont des joueurs sous contrat, des masses salariales élevées.
Est-ce que je te dis?
Où là, le réveil, le 12 août, enfin le 19, je sais plus quand est-ce qu'on reprend le championnat, où là, ça peut être, tu prends une porte dans la gueule, quoi. Il y a des gens qui peuvent ne plus être payés. Il va falloir vendre des joueurs limite au rabais parce qu'il va falloir alléger les effectifs et les masses salariales.
C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, quand tu vis au-dessus de tes moyens, le jour où les moyens ne sont plus là, et ben là, t'as des gros problèmes.
C'est comme le mec qui s'est acheté 3 appartements parce qu'il avait un salaire. L'air, machin, il avait gagné au loto et tout, et d'un coup, ben non, t'as été viré, t'as plus rien. Bim, faut payer les crédits et t'es à la rue. Pour en revenir donc aux déclarations, on va pas trop faire long ce soir sur la droite télé, on fait un feuilleton tous les soirs. Bon, j'imagine quand même que ça intéresse les gens qui nous écoutent parce que il faut bien comprendre que c'est vital en vrai. Hein. C'est fou. Tu sais, en fait, on l'a jamais dit, mais même pour nous, en fait. Imagine Thibaut, on est le 19 août, enfin. J'arrive pas à l'imaginer, parce que même au rabais, ils seront vendus, les droits télé.
Que tu veux dire, tu veux qu'on puisse pas voir les matchs?
Bah, ouais.
Ouais. Ah, bah, oui.
On peut même pas en parler, nous, en fait.
Ouais. On imagine même pas.
Nous, on peut aller sur un stade en même temps. Autant grâce à la télé, on peut voir plein de matchs. Mais
on a eu un petit avant-goût, France-Canada, dimanche soir, le premier quart d'heure qui n'était pas diffusé. Oui. On a été un peu dans cette situation.
c'est vrai, mais c'est toute l'économie du football qui dépend de ça. C'est pour ça que le diffuseur, finalement, il faut quand même un peu le chouchouter. Parce que c'est tout l'écosystème du football qui repose dessus.
Ou alors il faut d'autres sources de revenus.
Oui, enfin non, mais le fait de voir le championnat, en-delà des autres sources, t'as raison, c'est pour l'équilibre du budgétaire d'un club dont tu parles. Mais moi, je te parle pour tout le reste, pour les gens qui suivent et qui ne vont pas dans les stades. Il y a des supporters de l'OM qui peuvent pas aller voir Marseille parce qu'ils habitent à
que la Ligue 1 soit diffusée parce que il faut quand même savoir que, et c'est pour ça que je parlais du rugby, faut quand même savoir que le basket français, qui est quand même un grand sport en France.
Il y a rien.
Le basket, maintenant il y a Squeak.
Une poignée. Ouais.
Mais jusqu'à il y a pas si longtemps, il y avait plus de diffuseurs pour le basket français, pour la première division. Alors peut-être que les footeux qui suivent l'after ne sont pas au courant, mais c'est quand même un grand sport en France avec beaucoup de licenciés. Et il y a eu aucun diffuseur là il y a encore quelques mois ou quelques années.
Absolument.
Donc bien sûr ça n'arrivera pas au foot, mais ça n'arrivera pas au foot jusqu'à ce que ça arrive en fait. Donc tant que
dans 2 mois. Donc pour en revenir
à Diallo ce soir.
C'est la première fois quand même qu'on entend, parce qu'on l'avait pas encore entendu, la possibilité de faillite pour certains clubs. Je me demande quand est-ce que certains vont sortir du bois. Nicolin est sorti hier de façon un peu maladroite, mais néanmoins il y avait quand même du sens dans ce qu'il disait, parce que on sentait qu'il commençait à y avoir la panique. Kita commence à s'affoler aussi beaucoup. Et là, je me dis, on entend Nicolin, Kita, ceux qui sont en train de s'affoler, c'est les petits. Et là, on est en plein dans ce que j'ai toujours reproché au football français. C'est le chacun pour sa gueule. Au lieu de penser, j'ai l'impression vraiment de me répéter, ça fait tellement d'années, que sur le business, il faut que tout le monde s'entende pour faire grossir le produit et le valoriser. Là, t'entends des mecs, des présidents qui disent, écoute, nous, dans le bilan, on devrait s'en sortir. Parce que si t'es un club européen, les droits internationaux, c'est toi qui les croques, en fait, quand t'es un club européen. Donc, tous ceux qui sont pas européens, que dalle. Mais par exemple, j'en sais rien, moi, Lille, par exemple, ils auront des thunes, des droits européens. Et puis, ils avaient touché un petit peu plus par le biais de CVC. Donc, eux, ils peuvent se retourner un petit peu. Mais les Nantes, Montpellier, donc, on va avoir un fossé énormissime dans la Ligue 1, déjà qu'il est assez important, mais il y a un tas de clubs qui sont quasiment à la rue si ça bouge pas. Même la somme de 500 millions vaut mieux ça que rien, mais je peux t'assurer, quand tu vas faire les divisions, quand tu vas répartir entre notoriété et résultat, il va pas rester lourd. Donc oui, la situation devient très préoccupante, et ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'on n'entende pas les gens parler. On n'entend pas les présidents venir.
Tu veux qu'ils viennent pour dire, bon, c'est vrai, vous avez raison, on s'est trompé. c'est pas trop leur genre.
Écoute, peut-être pas, mais un président un peu. Le problème, c'est qu'on n'a pas de président emblématique. Pendant un moment, t'avais Aulas qui pouvait un petit peu prendre les devants et dire. Je sais pas, on sait que lui, par exemple, pouvait être en lien avec Canal, avec les diffuseurs. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, je suis affligé du fait que l'OM ne dise rien. C'est pas possible que ce club ne participe à aucune réunion, discussion, il n'y a rien. En termes de tout, c'est le deuxième club français avec une notoriété incroyable. D'abord, déjà, ils se sont fait fourrer sur CVC avec la somme qu'ils ont pris. Et là, quand tu vas vendre quoi comme projet à Concessao, s'il te manque d'ores et déjà 30 millions dans les caisses parce que t'as pas ça. Et rien. Il n'y a pas de club phare, de club leader. Alors on va me dire, le PSG. Mais le PSG, au fond, qui est finalement le club, Nasser, c'est lui qui dirige la Ligue, puisque La Brune est devenue son laquais. Mais eux, en fait, ils s'en foutent. Parce que d'abord, il y a CVC, ils ont pris une part énorme. Deux, il y aura l'argent de la Ligue des Champions, des droits télé de la Ligue des Champions. Parce que ce que Canal a donné pour obtenir les droits de la Ligue des Champions, c'est très important. Et il faut savoir aussi que les équipes qui sortent de la phase de poule prennent une part de gâteau beaucoup plus importante. Et tu sais, si t'as jamais été éliminé en barrage, comme beaucoup d'équipes, par exemple l'OM, quand ils ont été éliminés en barrage, les deux qui ont fait la Ligue des Champions ont pris une part de gâteau plus importante. Ouais. Donc en fait, dans le chacun pour soi, le PSG du bon.
Non, mais ça va.
Nous, on s'en fout. De toute façon, ils n'ont jamais œuvré pour une répartition plus importante à Paris. Donc, ils préfèrent qu'il y en ait 10 qui traînent dans le caniveau. De toute façon, la Ligue 1, ils la gagnent de toute façon. Ça leur sert d'entraînement pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions, ne l'oublions pas, qui a changé de formule. Où tu vas démarrer en septembre pour terminer fin janvier. Où c'est une sorte de championnat qui va te demander un petit peu plus d'énergie.
Plus de matchs.
Donc, le PSG, la Ligue 1, tu sais, tu te souviens, les débats sur la Super League. Ouais. En fait, eux, ils se sont déjà. Le PSG a déjà muté en Super League avec la Ligue 1 où finalement déjà qu'ils s'en foutaient un petit peu. Là, ils vont s'en foutre encore plus pour mettre leur force. Ils ont les droits télé de la Ligue des Champions, les droits télé de CVC et les droits internationaux. La plus grosse part va aller dans leur poche. Donc tous les autres sont en train de se faire fourrer et il y en a pas un qui parle. Il y en a pas un qui parle.
Parce que
Textor, il est pas sur le dossier. Je sais pas pourquoi. Parce que Textor, tu sais qu'il est bon dans ce dossier-là. Il a eu dans ses business ces histoires de droits télé.
Il a peut-être beaucoup de trucs à gérer lui aussi. Avec tous ces clubs.
Mais à un moment, si on n'a pas de président.
Et là, tu parles de partage, tu parles d'égoïsme. Mais on parle même pas des clubs qui sont en Ligue 2. Et je te parle même pas de ceux qui sont en dessous.
Ouf.
Tu vois ce que je veux dire?
Parce que par le biais de la taxe Buffet, c'est tout le sport amateur qui était également arrosé.
Exactement.
On va s'arrêter là pour ce soir. Suite évidemment demain dans l'after, prochain épisode et sur rmcsport.fr toutes les informations.
Si les présidents veulent parler, on est là.
Voilà. Qu'ils n'hésitent pas.
S'ils veulent lancer un message.
Le 32-16.
Et au point ils en sont, qu'ils aillent pleurer devant la porte de Canal, ils peuvent y aller parce qu'ils vont sauver tout le monde. Mais je répète, sur la base, ce serait que le président s'en aille. Si l'Orléanais veut retourner à Orléans ou à Saint-Rémy, puisque voilà, au bord de la piscine, là où il est le mieux finalement.
22h18 les gars, c'est l'after, Daniel Riolo, Kevin Diaz. On a du live ce soir, Kevin, parler basket. On va connaître le champion peut-être, très probablement ce soir, notre champion de France de basket.
Ah bah là,
Le match 4 de la finale entre Paris et Monaco. Salut Arnaud Valadon.
Salut messieurs, ah oui, t'as raison Daniel de dire là, puisqu'il y a presque 40 points, plus 37 pour Monaco alors qu'il reste 4 minutes. Dans le troisième quart-temps, c'est une boucherie monumentale. 82-45, il y a 2-1 sur cette série, c'est au meilleur des 5 rencontres. Donc ils vont plier l'affaire, les Monégas. Alors Jérôme Rotel était venu il y a 2 jours. On a aussi annoncé sa présence à l'Adidas Arena parce que le match se joue à Paris dans cette magnifique salle de 8000 places.
Est-ce que Steve Brun est dans l'assistance?
Alors Steve Brun était là, je crois qu'il est là. Oui. Il y a Lilian Thuram qui est un très grand fidèle, tu sais, de ce Paris Basketball, de cette salle magnifique de
Lionel Jospin aussi.
Lionel Jospin aussi, effectivement, qui a toujours aimé le basket, qui a joué au bataillon de Joinville durant sa jeunesse, qui venait toujours pour les grands rendez-vous avec l'équipe de France, Génération Tony Parker notamment. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Faut que tu viennes, Daniel. C'est une très belle salle.
Je propose que tu nous amènes Steve Brun à la fin du match, là, d'une petite analyse. Il avait prévu la victoire de Monaco dès ce soir, c'est important.
Oui, je crois qu'il avait dit en 3-1 la victoire finale.
Ça va.
Donc, je lance l'invitation.
Autre star présente ce soir, Oussem Loussaïef également.
Ah, il y est aussi?
Ah, il y est aussi, dès qu'il s'agit de croquer.
Bon, on m'avait invité, mais j'ai un travail.
Y en a qui bossent.
On voulait me faire découvrir l'Arena.
L'Adidas Arena. À tout à l'heure, Arnaud, pour le sacre de Monaco. Et puis, on a de l'athlétisme, les championnats d'Europe qui se terminent ce soir à Rome, avant de basculer sur l'Euro de foot. Aurélien Tiercin est là-bas avec encore une bonne nouvelle ce soir. Salut Aurélien.
Salut les amis, deux nouvelles médailles pour l'équipe de France et c'est pas fini. Yann Schrub, notamment vice-champion d'Europe du 10 000 mètres. Jimmy Gressier, qui était un des autres grands favoris français, a des petits problèmes au tendon. Il finit cinquième malheureusement pour lui. Et puis Anaïs Bourgoin, toute première sélection en équipe de France.
Ah, je l'ai vu sa médaille.
Eh ben oui, elle va chercher le bronze sur 800. Daniel, elle a 27 ans et a fait une course monumentale, notamment en demi, avec un chrono en 1:58.30. Donc là, ça commence à être très très sérieux. On peut même rêver des Jeux Olympiques. Alors malheureusement, les deux relais 4x400 se sont un petit peu cassés les dents ce soir. Quatrième pour les garçons, cinquième pour les filles. Mais il nous reste des espoirs, notamment Thibaut Collet au saut à la perche. Alors la première, vous le connaissez, c'est Armand Duplantis. Il y aura pas de suspense pour la première place, mais la médaille d'argent, pourquoi pas, pour Thibaut Collet. Il nous reste également Asdin Habs, l'oublié de la Fédé sur les listes administratives, qui a été repêché par European Athletics. Lui fera face au Norvégien Jakob Ingebrigtsen. Et puis on aura également le 4x100 féminin, là avec un petit peu moins de chance de médaille, mais c'est d'ores et déjà le troisième championnat d'Europe le plus réussi de l'histoire de l'équipe de France. Et ça, c'était quand même incroyable à quelques semaines des Jeux.
15 médailles là, c'est ça pour l'instant.
15 médailles, oui.
Et c'est pas fini. À tout à l'heure, Aurélien, 22h20, pause et on se retrouve en direct dans l'after avec Daniel Riolo, Kevin Diaz et l'Euro J-2. Les dernières infos sur place avec Nico Pelletier. On parle arbitrage notamment. On connaît les directives et puis les Bleus au programme. Quelle animation offensive! On écoutera Antoine Griezmann et on vous attend au 32-16 pour en débattre. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes jeudi le 12 juin, il est 22h23. Vous écoutez l'after, RMC, première radio de France à cette heure-ci. Merci d'être là. Kevin Diaz et Daniel Riolo en direct jusqu'à minuit à suivre. Débat équipe de France, quelle animation offensive pour les Bleus. France-Autriche, c'est dans 5 jours. On vous attend nombreux au 32-16. Et justement, à deux jours du début de l'Euro, Allemagne-Écosse, ce sera à Munich, vendredi soir sur RMC. Et avant l'aspect sportif, on a eu des conférences de presse aujourd'hui concernant l'arbitrage, notamment, on va en parler dans un instant, et la sécurité. Et Nico Pelletier est sur place en Allemagne. Comment ça va, Nico?
Salut les amis, salut à tous.
Bon, c'est comment là?
Il est déjà là-bas, Nico.
Ouais, J-2,
j'étais parti faire sitôt.
Depuis lundi, Daniel.
Oui. Bah, je sais, mais t'as fait quoi tout ce temps-là?
Bah, du reportage pour le site, pour les antennes, pour la matinale, pour tout le monde.
T'es à Munich là, c'est ça?
Et ça y est, ça se prépare.
Je suis à Munich. Bah, ça se prépare, ça monte tout doucement. Alors, depuis lundi, on voit pas tellement de supporters, notamment écossais, hein, parce que c'est quand même le premier match Allemagne-Écosse vendredi. On voit pas beaucoup de supporters écossais. On a un peu plus vu aujourd'hui autour du stade à Munich, beaucoup de supporters écossais qui prenaient des photos. Sûrement demain, les journalistes écossais nous disaient qu'il y a un gros arrivage demain en fin de matinée depuis l'Écosse. Mais pour l'instant, l'ambiance est un peu calme dans les rues de Munich.
Un peu comme en France, tu trouves ça comment?
Bon, c'est l'Allemagne, quoi.
Non, t'abuses. Munich, c'est pas mal.
Ouah, c'est pas mal.
Bavière, c'est chouette.
Bah, voilà.
C'est bien.
Fais confiance. C'est-à-dire que d'après Daniel, si t'as vu Munich, t'as tout vu, c'est ça? Munich, c'est
Top.
Oui.
L'Allemagne, j'aime bien, je préfère Berlin.
Franchement, c'est un beau pays. Il y a des villes, ok, un peu dans le nord, un peu tristoun, c'est sûr, tu vas pas t'éclater à Dortmund, à Bochum, tout ça. Mais l'Allemagne, même la côte dans le nord, c'est pas moche, hein.
Oh, mais Nico, il est plus
chouette.
C'est les Baléares.
Ma culture.
Nico, c'est les Baléares, les Canaries.
Moi aussi, évidemment. Moi, quand il n'y a pas de soleil, je dépéris.
Moi, c'est la Corse.
Oui, je sais, Nico, mais c'est pas si moche que ça.
Bon, allez, les gars, le temps passe. Nico, on va parler de l'arbitrage dans un instant. Mais d'abord, parle-nous de la sécurité. Évidemment, question cruciale, on en parle beaucoup en ce moment, et notamment en Allemagne, la menace terroriste est là, bien évidemment, le hooliganisme, la désinformation, l'Ukraine, il y a beaucoup de sujets cette année pour l'Allemagne.
Exactement, alors la menace terroriste, on l'avait déjà eu à l'Euro 2016 avec les attentats de 2015 à Paris, donc on connaît un peu, l'Allemagne est un peu comme la France avec une menace terroriste très forte. Mais la grande crainte des policiers que l'on a pu rencontrer ces dernières heures, c'est surtout les regroupements de hooligans en amont et après les matchs de Coupe d'Europe, là pendant ces prochains matchs, là, les 51 rencontres qui auront lieu en Allemagne. Et donc on a très peur d'un regroupement de hooligans sur les groupes Telegram de hooligans. On prépare déjà des fights, hein, ce que l'on appelle un fight dans le mouvement hooligan, des fights entre différentes nations, surtout des pays de l'Est qui appellent à venir faire des fights en Allemagne. Donc des mesures renforcées pour le contrôle aux frontières, par exemple. Des Anglais, 1500 Anglais ont été interdits de quitter le territoire considéré comme ultra-violent. Donc voilà, il y a beaucoup de craintes autour du hooliganisme. Et puis la désinformation, c'est surtout lié à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il y aura l'équipe d'Ukraine ici en Allemagne. Elle aura des mesures de protection renforcées, des mesures de protection aussi individuelles quand les joueurs et le staff sortiront pour aller s'entraîner. Donc voilà, c'est tout un schéma d'organisation de la sécurité ici en Allemagne. C'est ce que nous disait aussi beaucoup de monde à l'UEFA, c'est aussi la première compétition avec autant de conflits dans le monde. Il y a le conflit entre l'Israël et la Palestine. Il y a aussi cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, énormément de conflits. Et donc, on aura sûrement des messages politiques dans les tribunes lors des premiers matchs.
Il y a eu un point arbitrage également, Nico. Bon, on parle de petite révolution. Enfin, j'ai lu des papiers là-dessus. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça concernant le VAR notamment?
On est d'accord. On est loin d'une révolution. Déjà la bonne nouvelle. Peut-être que Daniel va me contredire, mais c'est qu'on aura Clément Turpin vendredi lors du match d'ouverture au sifflet.
Cette année, les arbitres français ils croquent. Hein.
Et François Le Texier à la VAR, donc voilà, deux arbitres français
Le
pour
Turpin,
cette
année. Ils ont régalé, hein, moins en Ligue 1 et au niveau européen, ils ont bien régalé. Hein.
Et Roberto Rossetti, le patron de l'arbitrage à l'UEFA, nous a dit c'est un très bon arbitre international. Donc voilà, les louanges pour Clément Turpin. Et donc oui, alors une révolution, on est quand même loin d'une révolution pour l'arbitrage. Il y aura deux éléments importants. Tout d'abord, l'arbitre aura le droit d'échanger avec un seul joueur, ça sera le capitaine lors des rencontres. Un seul joueur aura le droit
si
de venir
viennent,
et de s'approcher. Carton jaune, c'est comme ça.
Qui veut pas, puis il prend un carton.
Exactement.
Jaune.
Roberto Rossetti nous a dit aujourd'hui, c'est carton jaune. Le premier qui s'approche, c'est carton jaune. Et en fait, cette mesure, il y a quelques mois,
on
j'avais
l'a beaucoup
fait
dit,
l'interview.
Ça, Nico, ça s'est entendu il y a des années. Hein, on va vraiment le voir, ça.
Ça sera en place lors de cet Euro dès vendredi. Premier qui s'approche, si c'est pas le capitaine, si c'est le gardien qui est capitaine, par exemple Donnarumma avec l'Italie qui est capitaine, ça sera un joueur qui sera le représentant sur la pelouse, qui sera désigné juste avant la rencontre. Mais si un autre joueur s'approche, c'est carton jaune et c'est ce que nous a dit Roberto Rossetti aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une petite évolution. C'est plutôt pas mal.
En tout cas, ça va ressembler, je disais tout à l'heure, à ce qui se passe au rugby, c'est-à-dire que il y a quand même plus de respect pour l'arbitre, puisque moi y compris, hein, on sait que nous les joueurs, en fait, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui sur un terrain de foot de se maîtriser, de se contrôler. Ouais. Donc,
sauf si t'as la carotte du carton.
Voilà. Plutôt le bâton du carton.
Oui.
Mais en tout cas, c'est un jingle ça ou pas?
Non.
Mais en tout cas, je pense que malheureusement, c'est pas le football que je préfère, mais il va falloir un football un peu plus aseptisé parce que sinon, ça ressemble plus à grand chose, et notamment dans le monde amateur pour les arbitres. Ouais.
Et surtout, Kevin, dans une compétition comme l'Euro, les cartons sont hyper importants parce qu'une accumulation de cartons te fait louper un match très rapidement. Et donc, c'est ce que Rossetti a aussi expliqué, c'est que prendre un carton jaune dès le premier match, ça peut aussi avoir des conséquences très rapidement lors de cet Euro. Il nous a aussi expliqué qu'une personne qui serait, par exemple, je sais pas, un tacle, ça s'embrouille à terre, et une personne qui vient et qui fait juste le geste à l'arbitre de donner un carton, ça aussi, normalement, ça sera carton jaune pour la personne qui demande le carton.
Ah ouais, ça va tomber dans tous les sens, là.
Ça peut pleuvoir des cartons dans tous les sens.
Mais ça, c'était déjà le cas. On n'avait pas le droit de réclamer un carton.
Ouais, Kevin, les trucs dans le foot qui étaient déjà le cas, on les connaît. À l'arrivée, c'est pas comme ça que ça se passe.
Hein. Ouais, mais d'accord. Mais bon, c'était déjà dans la règle.
Oui.
T'étais pas censé demander un carton.
Ce que je veux voir,
carton.
C'est la mise en pratique, moi.
En début de saison, on avait discuté avec Stéphane Lannoy, l'ancien patron de l'arbitrage professionnel à FFF. Il voulait mettre ça en place en Ligue 1. C'était une consigne de nos arbitres. On l'a pas du tout vu en Ligue 1 cette saison. Ouais. Et donc, il y aura la deuxième nouveauté de cet Euro 2024. Ça sera une meilleure communication autour de la VAR. Alors, par exemple, on est dans le stade. Ça va s'afficher sur grand écran très rapidement, décision de la VAR. Par exemple, on nous a montré un exemple aujourd'hui. Ça sera une explication beaucoup plus détaillée qu'on a l'habitude. Il n'y aura pas juste marqué recours à la VAR. Il y aura par exemple marqué penalty, faute de main, le joueur numéro tatata de l'équipe de France a touché la balle avec sa main gauche, qui était dans une position pas naturelle au-dessus de son épaule. Et donc,
mais
vraiment,
elle va tomber quand l'explication, à quel moment?
Ah, ça va aller très rapidement parce que l'arbitre doit le signaler à la VAR qui est basée à Leipzig, donc à plusieurs kilomètres du stade. Et donc, ce qu'il signale dans le micro à l'arbitre assistant VAR, ça sera automatiquement noté sur l'écran géant du stade et signalé aussi aux journalistes et aux diffuseurs. Donc très rapidement, donc c'est ce qu'on nous a expliqué. On sait que la VAR, ça met souvent une vingtaine à trentaine de secondes, même quand l'arbitre va voir l'écran. Donc ça sera signalé très rapidement et on nous a montré un exemple aujourd'hui. C'est vrai que c'est signalé assez rapidement. Donc on n'aura pas l'arbitre qui signale dans tout le stade, comme on a pu le voir par exemple au Maroc lors de différents tests avec l'arbitre qu'on entend dans tout le stade. Mais là, ça sera marqué sur les écrans géants et ça permet une meilleure compréhension selon le patron des arbitres.
Bon, du coup, ce qu'on retient, c'est que ce week-end, pour ces premiers matchs, ça va cartonner sévère, le temps que tout le monde se fasse à la règle. Merci beaucoup, Nico. Bonne soirée.
Et petite précision, et ça revient au premier débat. Il y a beaucoup de journalistes allemands qui m'ont demandé sur les droits TV en France, parce que pour eux, c'est une bonne idée de prendre certains joueurs au rabais pour les clubs français. Donc voilà, je voulais le signaler quand j'entendais votre débat.
Ils sont à l'affût.
Ah, tu veux dire qu'ils attendent la grande braderie?
Exactement.
Pour la réforme de l'arbitrage, la nouvelle sévérité, il est sympa Rossetti, il a attendu la retraite de Verratti pour mettre tout ça en place. Sinon, je pense que dès le deuxième match, il n'était plus là.
ça doit être l'explication.
Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi qui aimes un football un peu entre guillemets à l'ancienne? Mais malheureusement, c'est un peu comme l'histoire des supporters, il y a un moment, il faut y venir en fait.
Je veux voir comment ça se passe. L'histoire du VAR, là, de toute façon, ça reste du gadget, ça n'apporte jamais rien.
Le VAR, ça marche très bien dans les sports américains. Ils l'ont fait d'ailleurs au foot, en MLS.
Tu vas pas me refaire un débat sur
le VAR
maintenant,
les gars. Non,
je te parle pas du VAR.
On va parler de ça.
Daniel Riolo, je te parle d'expliquer au public la décision de l'arbitre. Ils l'ont fait au Portugal, c'est très bien.
Moi, je m'en fous. Ça, c'est gadget. En revanche, l'histoire des
cartons, ça c'est bien.
La pluie de cartons.
Attention, l'objectif, c'est pas qu'il y ait une pluie de cartons.
Non, l'objectif, c'est
que les joueurs se comportent mieux.
Eh oui. Bon, merci Nico.
Merci à vous.
Il y a Idir qui nous dit dans le chat de la chaîne de l'After, va voir le lac Constance à Munich, c'est trop beau, paraît-il.
Voilà. J'irai voir demain.
Le petit conseil supplémentaire.
Il n'y a pas le temps, il bosse Nico.
Il
se lève à 6h, il se couche à minuit.
Ah oui. T'es pas venu souvent reportage avec Nico. Allez Nico, bonne soirée.
Allez, bonne soirée. Ciao
Nico, 22h34. Dans un instant, les Bleus au programme. Je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui pour l'équipe de France avec Thibaut Boll, entraînement. Pas bien que ça nous arrive aussi. Et puis, débat, quelle animation offensive pour les Bleus. On vous attend au 32-16. C'est l'after avec Daniel Riolo et Kevin Diaz. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
On passe la soirée ensemble avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec vous tous à la radio sur RMC, sur YouTube, la chaîne de l'after, @after-foot. Vous pouvez venir nous voir et commenter votre soirée foot. Il y en a qui réclament les chapeaux, notamment ceux de Thibaut d'hier. Sachez qu'à 23h, on fait les chapeaux. Milieux de terrain.
Il était incroyable hier, Thibaut Leplat. Ouais. En fait, il connaît pas le principe des chapeaux.
Il est fait comme il est.
C'est impossible. Tu peux pas être directeur sportif et laisser de côté les meilleurs joueurs européens.
Écoute, chacun les chapeaux, c'est chacun sa tambouille. Voilà.
Il y a Cred qui dit.
Moi non plus, j'ai pas compris, mais bon.
Cred dans le chat, il dit montrez-nous les chapeaux de Thibaut, c'est pour la science. Du coup, ce qu'on va faire, on va les envoyer directement à Science et Vie. On va pas les mettre. On fera les milieux de terrain à partir de 23h avec les drôles de dames. Soyez là tout à l'heure. Xavier Barret sera avec nous dans quelques minutes, journaliste, auteur du guide insolite et érudit de l'Euro. Mais d'abord, en parlant de l'Euro, justement, les Bleus sont en Allemagne. Ça y est, arrivé aujourd'hui à leur hôtel Best Western Park and Spa à Bad Lützbring.
Beaucoup moins de luxe que d'habitude.
Ouais. Ça fait un moment déjà, non?
On a baissé en luxe.
Ça fait quelques années, non? Tendance.
Non.
Non?
Pas comme là, vraiment. Là, on est limite. C'est limite un hôtel où Kevin peut aller en vacances.
Quoi. Non, mais moi, pareil, j'ai l'impression que Best Western, je peux y aller, quoi. les Bleus joueront contre.
C'est pas mal.
L'Autriche dans 5 jours.
Star du foot.
Pas trop.
Qu'est-ce qui fait star du foot? C'est quoi?
Le Palace, quoi.
Eh oui.
Star du foot.
Ah, je sais pas, tu te souviens pas où ils étaient les années d'avant? Même au Qatar. Au Qatar, ils étaient.
Ah, je me souviens pas.
Ils étaient à l'Ibis,
Qatar. Mais il y en a pas au Qatar, des Ibis, peut-être.
Mais ils étaient dans un truc luxueux.
Ouais, mais là, ça va, ça doit quand même être correct, non?
Oui, ça va. Je pense qu'il n'y a pas, pas des punaises de lit dans la chambre.
Non, normalement, ça devrait aller.
C'est juste que c'est étonnant par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir.
Alors, aujourd'hui, les Bleus.
C'est un peu terne.
Sont arrivés.
Une forme d'austérité.
Écoute. peut-être en prévision de l'argent qui rentre en
maintenant. Tu sais que les clubs de Ligue 1, ça y est, ils vont plus au Novotel. Maintenant, les clubs de Ligue 1, ils vont en Campanile comme les clubs de National 2.
Là, c'est à finir en Formule 1. On rigolait, mais ils vont tous prendre la carte courte paille de Flo Gautreau.
Exactement.
Il avait raison avant tout le monde.
Ils vont y aller en bus, ils vont s'arrêter sur le chemin, sur l'autoroute au courte paille.
Et ils vont terminer au Campanile sur l'autoroute.
On devrait faire ça une fois pour sourire. Qu'est-ce qui va être terminé avec les nouveaux 3 télés? Mais les avions privés, c'est fini. Hein. Ouais. C'est charter ou c'est Transavia, comme tout le monde.
Avions privés, genre jet privé, tu veux dire?
Bah maintenant, c'est
comme celui que le maire de Lyon a pris pour aller voir les filles à Bilbao.
Pour la finale de Ligue des Champions,
Polo a pris pour aller à Bilbao. Ouais. C'était ça.
Bon, les gars, les nouvelles des Bleus.
Vous voulez placer quelque chose, là?
Les nouvelles de l'équipe.
Non, vous voulez placer que le maire de Lyon et Colo a pris un jet privé pour aller voir les filles à Bilbao.
Théo Hernandez, sachez-le, a écourté son entraînement aujourd'hui. Il est rentré au vestiaire plus tôt, mais a priori, nous dit-on, c'était prévu. Il a pris un coup au genou contre le Canada. Tchouaméni a également fini la séance à part avec le préparateur physique. Giroud et Griezmann ont pris un coup à la cheville, mais ils ont fini la séance, donc ça devrait aller. Et Rabiot, lui, qui était le blessé du début de rassemblement, a participé à l'opposition en fin d'entraînement. Il y avait aussi conférence de presse aujourd'hui, Upamecano et Coman. Et tiens, pour les bonnes nouvelles, écoutons Kingsley Coman nous parler de quelque chose d'important. On sait que finalement, la première mission de Didier Deschamps est accomplie, l'esprit groupe de cette équipe.
Je trouve que c'est similaire, on est dans un groupe qui est confiant, qui est apaisé, qui rigole beaucoup, il y a une superbe ambiance au quotidien et voilà, on est vraiment prêt à se battre les uns pour les autres. Tout le monde a confiance en son partenaire et je pense vraiment qu'en termes de groupe et d'affinité, on est au top de ce qu'on peut faire. Donc l'important c'est de surfer sur cette vague, de prendre tout le positif et espérer les bons résultats.
Le groupe vit bien, évidemment. Dans 5 jours, ce France-Autriche. Quelle animation offensive pour les Bleus. 32-16, si vous voulez en débattre avec nous. Et comptons juste avant Antoine Griezmann. Il en a parlé en conférence de presse, c'était à la veille du match contre le Canada. Expliquer, tout le monde ne le fait pas en équipe de France, mais lui a parlé foot, son rôle dans le schéma actuel de l'équipe de France.
Phase défensive, avec Kylian les deux devant, deux blocs de quatre, et défendre ensemble, être compact et une équipe solide et dure à attaquer. Et après, en animation offensive, un peu ce qui est Marcus et Kylian, beaucoup de liberté, avec toujours un apport sur les côtés, mais beaucoup de liberté, et puis à moi de m'adapter, de voir ce que font mes coéquipiers pour trouver mon espace.
C'est pas méga clair non plus, hein.
Bah, en phase défensive, ça va. En phase offensive,
c'est pas super, super clair. Hein. Je sais pas, peut-être Kevin a compris mieux que nous, mais c'est pas méga clair non plus. Hein. Bon, bref.
C'est pas très clair.
On en a pas beaucoup parlé. Bon, maintenant, l'Euro approche. Hein. Lundi soir, il y a le premier match. Et effectivement, on a vu les matchs de préparation. Ça a jamais de toute façon été un 4-3-3 très net, clair, hein, l'équipe de France de Deschamps. Et là, enfin, il y avait quand même quelque chose qui semblait clair, c'était devant, t'avais un 9 qui était Giroud et t'avais Mbappé qui était sur sa gauche, qui faisait un petit peu comme il voulait, comme il a un petit peu toujours fait. J'ai lu l'interview de Deschamps cette semaine qui était assez intéressante sur comment il allait construire l'équipe et sur le rôle qu'il allait donner à Mbappé. Et en lisant l'interview, je crois qu'on a compris, et de toute façon on l'avait vu tout au long de la saison, on a compris qu'il avait clairement conscience que c'est pas, peut-être pas le Mbappé des années précédentes qu'il avait sous la main. Et que donc, il essayait de trouver la meilleure façon de l'utiliser. Une fois qu'il nous a dit qu'il construisait l'équipe autour de lui, ce qui en soi est déjà une information, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce genre d'idée-là, notamment les entraîneurs au-dessus de la moyenne, les fameux génies, alors que construire autour de ton meilleur joueur, c'est quelque chose d'assez basique, qui se faisait du temps de Platini, de Zidane, du duo Cantona-Papin, puisque Platini avait construit l'équipe de l'Euro 92 et des qualifs avant autour de ce duo. On voit ça on a vu ça dans énormément de pays, dans beaucoup de clubs. C'est quelque chose de somme toute classique. Sauf qu'il faut vraiment que le mec en question soit ton meilleur gars. Et aujourd'hui, il va falloir qu'il le prouve parce que la saison, elle n'est pas nette. Le débat autour de Mbappé et de sa position sur le terrain, cette année, on en a énormément parlé. Et avec la conclusion pour certains que de toute façon, puisque Luis Enrique avait décidé d'en faire un neuf, ça allait devenir un neuf. Je me suis beaucoup opposé à cette idée. En partant d'un constat clair, net, on connaît Mbappé depuis 2017. de 2017 à 2023, si on enlève cette saison où ça s'est moins bien passé, je veux bien l'enlever, hein, on met de côté son total de buts, allez, on va faire 2017-2023, on est tous d'accord sans débat que là où on l'a vu jouer, c'est en haut à gauche, et où c'est là qu'il a principalement réalisé ses plus grosses performances, on est d'accord. Mmh. Donc si jamais il devait devenir neuf, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est donc une deuxième carrière qui s'ouvrirait à lui. Cette année, on en a vu, on va dire, les débuts, les prémices de cette nouvelle carrière. On est d'accord qu'on n'a pas été enchanté parce qu'on a vu de Mbappé dans cette position, puisqu'on est tous d'accord pour dire que la saison n'a pas été bonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas bon dans l'avenir, mais il va falloir quand même qu'il nous prouve que ça peut être une position qu'il peut occuper. Pour l'instant, on n'est pas convaincu. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein. Mais je ne l'ai pas vu pour l'instant. Je suis dubitatif, mais j'ai envie de le voir. Mais en écoutant Deschamps en lisant, j'ai quand même l'impression que c'est une animation un petit peu faute de mieux, parce que il a clairement constaté que jouer sur le côté, et ça, quand on regarde un petit peu dans le rétro, c'est vrai que l'attaquant côté qui met des buts, ça a été une tendance à la mode, on va dire mode ouverte par Cristiano Ronaldo, puis Messi, où on va dire l'attaquant côté est devenu l'élément recherché. Rappelons que De Bruyne a commencé dans cette position-là avant de devenir un excellent milieu de terrain. Mais l'attaquant en haut à gauche, en haut à droite.
Hazard. Neymar.
Exactement. Et on aura tous noté qu'à un moment, ça bloque. Physiquement. Parce que ça nécessite que l'équipe soit équilibrée avec la même chose de l'autre côté. Faisons une liste un petit peu comme ça à la volée, on va pas se souvenir de tout le monde, mais il y en a un paquet qui n'ont pas duré. On a misé dessus, mais par exemple Sancho qu'on a vu avec Dortmund, il partait comme une bombe atomique. Il a été bon dans cette double confrontation, mais on va dire qu'il a plus déçu que
Rashford,
Sterling, qui a eu des très bonnes périodes, mais qu'on voit plus, qu'on a d'ailleurs d'abord pas trop vu, puis beaucoup moins maintenant. João Félix, il faisait partie de cette classe là. Énorme transfert, il s'est Sadio Mané qui est plus là, qui a été excellentissime et qu'à un moment on a essayé également de remettre un petit peu neuf, notamment Bayern, même à Liverpool ça a pu lui arriver la dernière année notamment. Mohamed Salah, on peut encore le mettre, il fait encore une bonne saison, hein, mais c'est des postes où je trouve t'as une forme de régression au bout d'un moment. C'est des postes où tu n'arrives pas à rester.
Mais c'est ce qu'on a dit. Et tu peux même rajouter Thierry Henry. Qui Thierry Henry était un joueur qui était un avant-centre.
Il a démarré en haut à gauche aussi.
Qui a démarré en haut à gauche.
Et rappelle-toi quand on disait ils ne peuvent pas jouer avec Trezeguet ensemble.
Exactement.
Et c'était très étonnant ça.
Et d'ailleurs, moi, dès le départ de la carrière de Kylian Mbappé, quand il avait dit il ne faut pas me parler d'âge, on disait ouais, mais Thierry Henry, non, moi, il ne faut pas me comparer. Moi, la fameuse phrase que sortent tous les jeunes joueurs maintenant, moi, je ne faut pas me comparer. Mais en tout cas, si on doit le comparer, c'est sûrement pas à Cristiano Ronaldo ou même à R9, c'est surtout à Thierry Henry. Et je lui souhaite d'ailleurs d'avoir la carrière de Thierry Henry, même s'il est bien parti.
Il est bien parti quand même.
Il est bien parti.
Là, ça va. Hein. Oui.
pour toi, ça c'est une bonne question. Pour toi, il a une meilleure carrière en tout cas.
Alors, tiens, il te répond juste après, voilà, mais c'est terminé, les gars.
C'est pas le débat. Là,
Monaco, champion de France de basket, Arnaud Baladon.
Oh, dernier suspense insoutenable. Plus 39 pour ce match 4. Ouais. 115 à 76. Daniel, Stephen va venir te débriefer pour t'expliquer parce que c'est une véritable boucherie. Et en tout cas, Monaco qui mérite largement son titre, son seul titre de la saison et le doublé, ils étaient champions l'année dernière, et bien ils récidivent après cette victoire 3-1 au terme de cette série face à Paris.
Merci Arnaud, à plus tard.
Alors est-ce que c'est un poste où tu tires plus sur le physique? Évidemment, bon, on a vu Cristiano Ronaldo, lui il a muté mais beaucoup plus tard, hein, dans sa carrière. Il est resté très longtemps sur le côté avant d'être neuf. Je crois que c'est vraiment à la Juve qui fait la transition. Au Real, il était toujours sur le côté, il y avait toujours un neuf puisqu'il jouait avec Benzema qui occupait ce poste-là. Entre le Messi d'avant 2015 et après 2015, il y a également pas mal de changements. Alors on me dira oui, mais il n'était pas complètement en haut à droite. Si tu regardes les cartes de comment on appelle, tu sais, la map machin truc là,
la heat map.
Voilà, exactement. Il était quand même et surtout jeune, très en haut à droite, et puis il se recentrait, et ça a terminé où effectivement il était complètement libre. D'ailleurs, si les mecs deviennent des stars, ça se termine souvent par tu deviens un peu un homme libre. En gros, on sait pas trop quelles consignes te donner, on sait que t'es le mec qui peut faire la différence, et dans l'interview, Deschamps précise même, Mbappé, plus il est près de la surface de réparation, mieux c'est pour nous. En gros, on va pas te demander de défendre. Essaye de nous mettre les buts parce qu'on mise sur toi et on considère que t'es le mec le plus important. Pourquoi tu fais signe, Thibaut? Il y a la pub là, c'est ça?
Exactement.
Il y a la pub depuis 3 minutes.
Ouais. On voit la pub et après on reviendra avec Kevin. Je veux son avis là-dessus.
C'est exactement ce qu'on va faire. Restez là, vous êtes sur RMC 32-16 si vous voulez réagir. Xavier Barry nous rejoint, auteur du guide insolite et érudit de l'Euro. Vous êtes sur RMC avec Daniel et Kevin. A tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Merci de nous avoir choisi Daniel Riolo, Kevin Diaz en direct jusqu'à minuit à suivre les chapeaux de l'after, les milieux de terrain. Ce soir, on vous attend au 32-16, bien évidemment, pour en débattre. On va conclure sur l'équipe de France avec Xavier Barré qui nous a rejoint. Salut Xavier.
Salut Thibaut, bonsoir à tous.
Bienvenue dans l'after. Tu es venu avec ton guide de l'Euro, le guide insolite et érudit de l'Euro. On va en parler dans quelques instants avec toi. Merci d'être là et d'ailleurs n'hésite pas à participer au débat. On est sur l'animation offensive des Bleus. On a entendu Daniel il y a quelques instants. Dans un instant, Thomas également va donner son avis au 32-16.
Attends, juste avant que Kevin réponde, parce que je vois passer 2-3 messages sur le chat. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des
chaîne
gens
YouTube.
Soit ils font exprès de pas comprendre, soit il faut qu'ils branchent quelque chose dans le cerveau. Mmh. Quand ils disent donc si Deschamps fait jouer Mbappé en 9. Ça veut dire qu'il est neuf comme a fait Luis Enrique, donc ça veut dire que c'est un neuf. Mais attendez, entre 2017 et 2023, il a joué où Mbappé? Sa révélation au monde en 2017, toutes ses performances, c'était bien sur le côté. Mmh. Il a encore, dans sa vie, jamais joué neuf. Si jamais il devait muter et devenir un neuf, ce serait une grande nouveauté.
Enfin,
ce serait un changement dans sa carrière.
Il n'a pas jamais joué neuf. Cette saison, il a été mis neuf pas mal de fois quand même.
Entre
2017 et 2023.
Si tu veux parler de cette saison.
Ah oui, 2023.
Si tu veux parler de cette saison, parlons-en. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire que cette saison, il a été décevant. Que ce soit d'ailleurs sur le côté ou en neuf.
Oui.
Donc, si jamais il devait devenir neuf, c'est pas parce que il serait un neuf puisqu'il ne l'a pas été pendant toutes les années où il a émerveillé le monde. C'est plutôt par défaut. C'est ce que j'essayais d'expliquer et que visiblement certains ont du mal à comprendre. C'est qu'à un moment dans ta carrière, les joueurs qui jouent là ont visiblement du mal à le faire 5 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans. Je sais pas, lui, il l'a fait.
Mais c'est l'explosivité après. Et puis il y a aussi le fait que.
Mais je suis d'accord avec toi. Visiblement, certains veulent pas comprendre ça.
Et pour te répondre, il y a un moment où, quoi qu'il arrive, que tu sois Mbappé, que tu sois même Cristiano Ronaldo, t'es plus le même joueur à 30 ans que tu étais à 20. Et d'ailleurs, Ronaldo a carrément, lui, changé son football. Mais même Kylian Mbappé, on le sait.
Donc ça se trouve là, à 25 ans, il a déjà perdu, tu penses, possiblement son explosivité?
C'est pas la question. C'est pas que tu perds ton explosivité. C'est que, après, il va continuer de perdre de l'explosivité et de la vitesse. Mais, les adversaires, ils s'adaptent.
Hein. Eh bien sûr.
Mais les adversaires, tu crois que t'es au niveau? Il y a des analyses. Ouais. Quand on dit que déjà Monaco, il y a 2 ans, tu te rappelles de cette victoire au parc de Monaco, qui avait très bien à l'époque où Damien Perinel venait de signer là-bas, t'avais fait la blague de savoir il y avait l'effet Perinel, etc. Ils avaient très très bien bloqué Kylian Mbappé à 2, à 3 des prises. Mmh. Qu'est-ce qu'a fait Dortmund? Mais Dortmund, ils se sont régalés avec Mbappé. Ils l'ont pris à 2, ils l'ont pris à 3, en phase de groupe aussi.
Pour et il pas, a et faut expliquer, ça n'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec une affaire d'effort. Ouais. C'est des mythos, ça. L'effort défensif, le mec qui doit défendre et tout ça. Quand t'as Mbappé qui était aussi ça, performant, non, ça c'est autre chose.
Mais Daniel, mais quand ça, un mec qui c'est quand même corrélé. C'est quand même corrélé parce que aujourd'hui le football,
Mbappé, il a jamais réellement défendu. D'accord. Cristiano Ronaldo non plus. Pareil. Les mecs étaient tellement forts offensivement que tu pouvais te passer de ce travail-là.
Justement.
Ça, aujourd'hui, c'est une fausse excuse.
Non, c'est pas une fausse excuse. Là, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
qui sont les mecs de côté qui ont beaucoup défendu?
Attends, laisse-moi te répondre. Et qui sont les mecs de côté qui ont mal fini aussi?
Beaucoup.
Donc
parce qu'au bout d'un moment, visiblement, ils peuvent plus.
Il y a un moment, la réversibilité aujourd'hui dans le foot, elle est accrue par rapport à il y a encore 10 ou 15 ans. Cette fameuse transition permanente. Et donc, c'est dans la transition que tu marques des buts. Tu sais que la majorité des buts sont marqués moins de 5 secondes après la récupération. Et je vais te dire, aujourd'hui, c'est même plus la transition qui te fait marquer des buts. C'est la transition de la transition.
Absolument.
C'est-à-dire que l'équipe de France a le ballon. Elle perd le ballon. Donc l'équipe adverse est en train de partir en transition. Et donc elle se désorganise. Et là, tu le récupères. Mmh. Et là, avec la vitesse, la percussion d'un Kylian Mbappé, c'est là où tu fais encore plus mal parce que le bloc adverse qui était équilibré s'est déséquilibré. Et c'est pour ça que Kylian Mbappé va devoir se réinventer.
Sauf que,
à moins qu'il arrive au Real dans une équipe qui ultra domine et qui maîtrise son sujet et qui, attention, le Real a le ballon en championnat.
Mais
d'accord.
Moi,
mais le Real, c'est aussi en Ligue des Champions jouer sans le ballon. Et c'est ça où ils sont
mais
forts.
Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il sera aussi fort?
Mais peut-être
quand
pas.
Quand je dis que c'est pas un neuf, parce que les mecs qui ont fait cette transition, t'en connais qui ont été meilleurs après qu'avant? Cristiano Ronaldo, à partir du moment où il est devenu neuf, il a continué à mettre beaucoup de buts, mais ça a jamais été le Ronaldo de Manchester et du Real.
Bien sûr.
C'est
mais c'est pareil pour Henry et Arsenal.
Sadio Mané, quand ils ont fait à la fin, on va peut-être en faire un neuf. René? Pourquoi Xavier t'as l'air de...
Non, ça a été rappelé.
Ils ont été là, moins performants.
Cristiano Ronaldo,
c'est plus tard dans leur carrière aussi.
Son jeu a changé. Son jeu a changé. Effectivement, souvent, c'est ce que disait Kevin, c'est que quand tu vieillis, tu as moins de volume de jeu, donc t'es plus utile dans l'axe où ton sens du but, ton expérience te permet de faire la différence, alors que sur le côté, t'as du mal à enchaîner les efforts.
Mais t'es d'accord pour dire qu'au final, quand tu arrives à cette transition, c'est par défaut. T'es pas plus fort que ce que tu étais avant.
Non, mais Kylian Mbappé ne sera jamais plus fort qu'en 2018. C'est impossible.
Donc c'est pour ça que je maintiens. Au fond de lui, un œuf.
Non, mais ce sera jamais un œuf.
Finalement, on est en train de construire une équipe un peu par défaut. Parce que si tu avais tout le monde au top, parce qu'il faut pas oublier de préciser aussi un autre truc, c'est que Giroud aussi a beaucoup vieilli. Et que Giroud, on est également obligé.
Mais Giroud, ça a toujours été un neuf. Il ne faut pas comparer.
Je parle du duo. L'attaque idéale, celle qui avait, c'était Giroud, parce que Mbappé n'a jamais été aussi fort comme Cristiano Ronaldo quand il avait un bon neuf à côté. Ouais. Mais à partir du moment où tu perds Giroud dans son travail défensif, de pressing, et que tu as un Mbappé moins explosif, un Giroud qui vieillit, c'est pour ça que mon propos, quand je voulais parler de l'animation, c'est que tu es obligé quasiment de tout réinventer. À 4 jours du premier match, tu sais pas tellement, tu es obligé d'aller peut-être mettre Thuram sur le côté, mais pour le faire défendre, parce que c'est pas du tout un joueur de côté, Thuram. Il a jamais été bon dans ce rôle-là. Donc tu es obligé de compter sur Mbappé, parce que tu te dis c'est lui qui a le meilleur sens du but, c'est lui ton meilleur joueur, alors que t'en es pas complètement sûr, parce que les performances de cette année sont inquiétantes. Il y a quand même beaucoup de paris.
Thomas est là, les gars, au 32-16. Salut Thomas, bienvenue dans l'After.
Salut Thibaut, salut Kevin et salut Daniel.
Rejoins Daniel sur son inquiétude et cette animation un peu par défaut pour les Bleus pour cette Euro?
Complètement, on construit par défaut. Alors c'est force naturelle de construire. Moi je suis pas choqué qu'on dise aujourd'hui on construit autour d'Mbappé. Forcément, c'est ton meilleur joueur et je trouve ça normal. Maintenant, on fait ça par défaut, puisqu'en fait Mbappé, on serait presque prêt à le mettre en neuf, mais la réponse on la connaît tous, ce n'est pas un neuf. Il joue, faut différencier le fait que ce soit pas un neuf et qu'on tente de le faire jouer neuf, mais ce n'est pas un neuf Kylian Mbappé. Mais ce pourquoi on pourrait le mettre en neuf, c'est parce qu'on n'a tout simplement pas d'avant-centre de classe internationale aujourd'hui. Donc aujourd'hui, peut-être que par défaut, Kylian Mbappé, c'est peut-être ton meilleur, alors c'est paradoxal, mais ton meilleur avançant, ton meilleur, celui qui va te...
Si tu auras tourné un ou deux buts par match, ou si c'était, le problème, après, c'est, ce qui se poserait, c'est, Mbappé, vois si tu peux être bon comme avant sur le côté, parce que le 9, on va pas le bouger. Si on avait une star en numéro 9, un mec qui enfilait les buts,
Mais on n'a pas ça, Daniel.
On n'a pas ça.
Donc en fait, on n'a pas notre Haaland, on n'a pas notre numéro 9 de classe vraiment international qui ferait dire, celui-là, on le bouge pas, il est en 9 et il joue titulaire tout de suite. On peut pas. Donc après, je sais pas, on va bricoler, on va essayer de trouver quelque chose. Je pense que Deschamps n'aura, on connaît sa chance légendaire, mais peut-être il n'aura pas toujours cette chance de trouver son équipe en cours de tournoi comme en 2018. Donc j'ai peur que ce soit vraiment par défaut et qu'on bricole à chaque fois et qu'on doive se poser la question à chaque match de dire comment on va redémarrer le prochain match avec l'animation offensive. Et je sais pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où on va se poser ces questions là, mais c'est pas forcément très rassurant. Après, il faut pas se tromper, faut pas tout miser sur Mbappé, je veux dire, en devant, c'est pas possible. Même tout bon qu'il soit, et je veux dire, on gagnera pas l'euro qu'avec Mbappé. Il faut pas se tromper. Donc, il va falloir trouver une vraie animation offensive qui soit performante. Maintenant, j'avais trouvé Mbappé très bon, comme tu disais, 2017, Daniel, en association avec Falcao, quand il a commencé à Monaco. Ouais. Mais Falcao était ce vrai neuf. Voilà.
Et à chaque fois,
de toute façon, et pour finir là-dessus.
Et on va finir là-dessus,
Je sais que Thibaut, c'est l'heure, mais aujourd'hui, on ne devient pas neuf. En fait, on est neuf. Tu nais neuf footballistiquement, tu restes un neuf. Nzaghi était un neuf, Crespo était un neuf, Cavani était un neuf, Forlan, qui vous voulez, David Trezeguet, un neuf. Tu débutes ta carrière neuf, tu finis neuf. C'est très très rare et le seul qui est en train de se mouvoir, et encore il a commencé en professionnel en 9, c'est un Gonzalo Ramos par exemple qui lui était milieu de terrain et qui est devenu 9, mais depuis qu'il est professionnel il a toujours été 9.
Oui, donc en fait, mais je suis d'accord, c'est bien d'insister là-dessus.
C'est très rare.
Ceux qui disent c'est un 9 machin, Luis Enrique le génie, il en a fait un 9. C'est par défaut, c'est par défaut si tu fais ça. C'est parce qu'il n'a peut-être plus le niveau pour être fort en haut à gauche. Peut-être que c'est ça.
Je remercie Thomas d'avoir été là avec nous au 32-16 France-Autriche. Ce sera lundi sur RMC. Dans un instant avec Xavier Barré, le livre guide insolite et érudit de l'Euro qui débute dans deux jours par cette Allemagne-Écosse. Et puis les chapeaux des milieux de terrain avec les drôles de dames. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Daniel et Kevin.
RMC. I am very happy to be in the big club Tottenham.
Welcome, Silvinho. Are you okay? And are you happy to be
here? I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish. Huh?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Et thank you to be here, everybody. C'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz et avec Xavier Barré, journaliste qu'on connaît bien dans l'after, auteur du guide insolite et érudit de l'euro. On va en parler dans un instant, cet euro qui débute dans deux jours enfin avec cette Allemagne-Écosse. À suivre, le meilleur de l'actu du jour en fin d'émission et les chapeaux, bien évidemment, on continue ce soir. Les quatre drôles de dames sont là dans quelques minutes pour jouer au directeur sportif et classé ce soir les milieux de terrain. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous êtes très nombreux ce soir, @after-foot. Merci beaucoup. Et en direct de Rome avec Aurélien Thiersin. Ça y est, les championnats d'Europe sont terminés pour la délégation française.
Oui, exactement. Alors il reste la perche avec Armand Duplantis, toujours en tête, le Suédois évidemment, mais pour les Français c'est terminé. 16 médailles, deuxième au classement au tableau international, ça c'est une certitude. C'est la troisième meilleure perf de l'histoire des Bleus après les Europes de Zurich 2014 et de Barcelone 2010. À chaque fois l'Olympiade suivante, il y a eu des médailles, 6 à Rio 2016, 3 à Londres 2012. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'athlète français qui pataugeait dans la médiocrité depuis 2019. Bah, mon cher Daniel, c'est l'Italie, le home advantage, encore champion d'Europe du 4x100 mètres avec Marcel Jacobs et le bien nommé Filippo Tortu, dans le home advantage à le Stadio Olimpico qui a vibré, hein. 10 médailles d'or, 9 médailles d'argent, 4 médailles de bronze. Les Italiens ont survolé ces championnats d'Europe, mais okay. Les Français derrière, 4 en or, 5 en argent, 7 en bronze.
Merci beaucoup Aurélien, bonne soirée et à très vite pour l'Euro. Ça y est.
Salut.
Passe en mode Euro. Ciao. 23h06. Ouais. Guide insolite et érudit de l'Euro, justement, Xavier Barré. Et je dois le dire, cette couve déjà magnifique. David Trezeguet qui enlève son maillot. C'est fou quand même, comme une photo, ça là, tout de suite on remet quoi. Le moment où il enlève son maillot à l'Euro 2000. Je devais être en CP. Mais non, mais quel grand moment. Guide insolite et érudit de l'Euro. Ce qu'il faut savoir ou pas sur l'Euro, qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne connaissait pas sur l'Euro.
Il y a quelques petites choses que peut-être même Daniel ne sait pas. En replongeant, par exemple, il y a quelques temps, parce qu'il est décédé depuis, Chalana avait dit qu'il ne voulait plus parler à Platini. Michel Platini.
Ah ouais?
Parce que Platini ne l'avait pas calculé à la fin
de la demi-finale
à Marseille. Ouais. Ouais. Et donc, notamment, il n'avait pas voulu échanger son maillot avec lui. Et pourquoi?
Pourquoi Platini ne l'avait pas calculé?
Ouais. Et pourquoi?
Ah, c'est, je ne sais pas ça.
Ah ouais, tu vois.
Je ne sais pas, est-ce qu'il lui a mis trop de taquets dans le match, trop de tampons?
Il lui a mis un petit pont?
Non, même pas. C'est pas ça.
Non, il pouvait pas mettre des tacles, Chalana, c'était un joueur offensif.
Ouais, mais il pouvait.
C'est qu'en fait, l'arbitre de la rencontre était un Italien, Monsieur Bergamo, et donc il se rapproche de Platini à la fin de la prolongation et il lui dit, tu me donnes ton maillot? Et Platini lui dit oui si tu siffles tout de suite. Regardez la vidéo. Il siffle tout de suite. Il y a pas d'arrêt de jeu de la prolongation.
Mais non.
Et il file son maillot à Platini. Vous imaginez? Aujourd'hui, incroyable. Ça fait scandale. Ben,
c'est Platini qui lui file son maillot.
Platini lui file son maillot, absolument. Et du coup, il le file pas à Chalana.
J'imagine qu'il devait se connaître parce que.
Bien sûr, il joue à la Juventus.
Incroyable.
Il joue à la Juventus.
Mon rêve au final.
Babel, il y a l'arbitre. Il est quand même à la 120e.
Oui, mais ouais, t'imagines bon, aujourd'hui? Aujourd'hui, ça?
Ah ben oui, c'est fou.
Quand tu vois qu'il y a je sais plus quel arbitre de Ligue 1 qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique parce qu'il avait voulu échanger un maillot.
Oui,
je sais plus quel joueur.
Demi-finale de l'Euro. J'ai aucun souvenir de scandale d'arbitrage pendant la rencontre.
Non, je ne parle pas de scandale d'arbitrage. Mmh. Je dis l'anecdote, tu vois, elle est celle-là et d'autres. C'est dans ce guide.
Ah ben là, tu as démarré fort. Il va falloir que tu sois bon pour les
autres. Tu as préparé quelques petites questions.
J'ai quelques petits quiz. Vas-y. Puisqu'on parlait de Platini, c'est le seul à avoir fait deux triplés parmi les 8 qu'il y a eu dans l'histoire de toute l'histoire de l'Euro. Et il a fait notamment le plus rapide. En combien de minutes?
Ah, je l'ai lu, parce que j'ai lu ton bouquin, donc je vais pas jouer. Vous pouvez jouer dans le chat, hein, chaîne YouTube.
Je dirais en 8 minutes.
Ah, un peu plus, quand même.
Ouais. Bah, déjà, c'est contre les Yougoslavie.
Ouais.
Et donc, ouais, en 15.
Un petit peu plus.
En 20.
Presque.
C'était 18,
18
ça
ouais, 18 minutes.
Ah, bah, pas loin, je suis en 15, 18. Donc, Xavier, quand même.
18 minutes.
Parce que je me souvenais que c'est ultra rapide, le triplé. Ouais.
Un triplé en 18 minutes, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Ouais, mais bon, cet euro-là, effectivement, Michel Platini l'avait survolé. Il
9 buts en ça à la fin.
9 en finale et 3 contre les Yougos. Ouais.
Son fameux but en finale qui a donné le nom
Arconada.
Voilà, Arconada, qui jouait dans quel club à l'époque?
Real Sociedad.
Real Sociedad, oui. Sociedad.
Et attends, pour revenir aux trois buts contre Hugo, t'as pas anecdote, on t'a rien raconté sur le fameux coup franc où le ballon, c'est absolument incroyable. Le coup franc, et au départ, il est pour un gaucher. Au fur et à mesure, je sais plus qui discute avec l'arbitre, se met devant pour embrouiller l'arbitre, machin.
Et le
ballon,
il ressent
le ballon, ce qui fait que, bon, tu vois une surface. Imagine un coup franc qui serait pour un
côté
gaucher
droit,
qui enroule.
Ouais.
Et à l'arrivée, ça devient un coup franc, qu'on appelait un coup franc platinien.
Excellent.
Il est plus entré. Mais c'est Giresse qui se met devant l'arbitre, qui lui parle. Et pourtant, il prend pas beaucoup de place, Giresse, je sais pas. Mais il déplace le ballon et tu te retrouves en face. Un endroit où Platini, là c'est bon. Ça va au fond.
Il y a plein d'histoires avec les coups francs, puisqu'il y a aussi la fameuse demi-finale à Marseille contre le Portugal. Donc il y a son pote Domergue qui est là. Et puis normalement c'est Platini qui doit le tirer.
Oui.
Et puis il discute et Domergue, ouais, tu le sens, ouais, bah vas-y. Et bim, et il marque.
Oui, mais ce que je comprends pas, c'est comment il a pu lui dire vas-y.
Ouais,
moi, j'en reviendrai jamais de ça parce que jamais il en lâchait un puisqu'il était tellement fort sur coup franc. Comment il a pu lui dire bon, bah vas-y. Ça a pas de sens. Quand Domergue s'est mis à courir pour frapper ce coup franc, j'ai mis il est complètement fou, quoi.
Ouais, mais c'est ça.
S'il rate, Platini, il va
ça. Moi, j'ai une anecdote sur les coups francs et sur l'endroit où tu places le ballon. Mm. Comme Daniel a vu, j'étais quand même pas mal sur coup franc. Et en fait, dès qu'il arrivait proche de la surface de réparation, il a failli s'étouffer. Quand j'arrivais proche de la surface de réparation.
Quel boulard, celui-là, raconte pas ça parce que je suis en train de boire, je vais m'étouffer.
Plutôt que de décaler le ballon, moi, Daniel, je recule le ballon d'un mètre.
Mais ça, c'est parce que ta technique est pas celle de Platini. Il avait pas besoin de ça.
Non, mais d'accord, mais je suis pas Platini, hein, loin de là. Mais je veux dire que quand t'arrives proche de la surface, on dit, ça va être dur de passer au-dessus du mur. Mais plutôt que de vouloir avancer le ballon, il faut le reculer d'un mètre.
Bien sûr.
Parce que tu ouvres l'angle. Bien sûr.
Oui.
D'ailleurs, des coups francs comme ceux que tu as reculé ou l'avancé, ça marche. Ça se fait plus personne ne les fait, ça.
Non, bah non.
Où le ballon retombait direct, pouf. À chaque fois, les gens préfèrent reculer, effectivement, pour mettre de la puissance.
Il y avait quand même Ronaldinho était capable comme ça de faire un petit enveloppé comme ça.
Voilà, l'évolution des morphologies des gardiens de but aussi est sûrement pour quelque chose.
Aussi, oui.
Maintenant, que des Golgoths, des géants dans les buts. D'ailleurs, on a
même dans le mur, t'avais peut-être des défenseurs plus petits aussi à l'époque.
Ouais, dans le guide, il y a tout un chapitre
facile pour Platini de marquer un coup franc.
Ouais, c'était easy.
Tout un chapitre consacré aux gardiens de but parce que l'Euro, c'est la compétition où on les a le plus mis en valeur.
Les gardiens.
Ouais, gardiens. Dans le palmarès de l'Euro, déjà, t'en as 3 qui ont eu le titre de meilleur joueur de l'Euro.
Compétition. J'aurais bien trouvé. Donc Donnarumma, je le sais.
Ouais.
Et
Casillas.
Schmeichel en 92.
Schmeichel.
Ah ouais.
Dinosov.
Et Dinosov en 68, ouais. Exactement. Ouais. Donc,
en Coupe du Monde, on peut même
rajouter. Alors après, l'UEFA attribuait pas dans les premières éditions, il n'y avait pas de titre officiel attribué par l'UEFA. Donc il y a différents organes de presse qui attribuent un titre. Mais par exemple, 1960, Lev Yashin ou Ponedelnik. Il y a les deux qui sont cités. Et puis 76, l'histoire retient plutôt Panenka, mais à l'époque, c'était Ivo Victor qui était le capitaine de la Tchécoslovaquie.
Celui qui prend le grand pont de Pelé.
Non, ça c'était Mazurkiewicz.
Alors c'est celui qui prend le tir du milieu de terrain de Pelé.
Ouais, donc Ivo Victor qui était le gardien de la finale au tir au but, la première disputée au tir au but avec la fameuse Panenka.
Dans la justement. Coupe du Monde 70, pour rappeler l'anecdote de Victor, le gardien.
Donc les gardiens sont souvent très bien reconnu dans l'histoire de l'euro, et c'est pas tout à fait étonnant parce que, alors il faudrait que je vérifie le chiffre précis, mais il y a 27% des matchs à élimination directe de l'euro qui se jouent au tir au but. Tir au but. 27%. Ah ouais. Donc,
dans la demi-finale Italie-Pays-Bas de l'euro 2000.
Ouais.
Non, c'est Toldo. C'est Toldo. Francesco il est Toldo. Incroyable. Ah bah, il fait un match, mais fantastique. Fantastique.
Il arrête déjà deux pénalties dans le match et juste après, il fait la différence dans la séance.
D'ailleurs, il est élu meilleur gardien de cette compète, je crois. Exactement. Pas meilleur joueur, mais meilleur gardien.
Meilleur gardien. Il n'est pas meilleur joueur, c'est Zidane, mais il est meilleur gardien de la compétition.
Est-ce que tu peux rester un peu avec nous? En fait, est-ce que tu peux rester jusqu'à minuit? En fait, est-ce que ça te demande de participer au chapeau, Xavier?
Allez.
Simplement. Ouais.
Bon, après, c'est. Terminé les anecdotes.
Alors après la pub, on fait une petite pause comme ça.
Encore la pub. Thibaut, quand c'est toi qui es là, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de pubs.
Parce que tu sais que
regarde juste ta fiche de paix à la fin du mois.
Bien sûr. Gilbert revient demain. On va voir si ça. Si c'est moi. 23h14. Dans un instant, encore 2-3 anecdotes et les chapeaux de l'after. Les milieux de terrain ce soir avec Daniel Riolo, Kevin Diaz, avec les drôles de dames, avec Xavier Barré et avec vous tous au 32-16. Vous l'avez compris, ça va être le bordel. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
23h16, l'after avec jusqu'à minuit Kevin Diaz, Daniel Riolo, Xavier Barré, journaliste, auteur du guide insolite et érudit de l'Euro. Dans un instant, les drôles de dames pour les chapeaux, les milieux de terrain. Mais on voulait encore avec toi, Xavier, quelques 2-3 anecdotes de l'Euro.
Une ou deux. Bah, tiens, il y a 25 bleus qui ont participé à l'Euro sans jouer une seule minute. Bon, parmi eux, il y a 10 gardiens. 15 joueurs de champ. Est-ce que vous êtes capable de m'en citer 3?
Non, là, c'est comme ça, c'est compliqué. Là. Les mecs qui étaient dans le groupe et qui n'ont pas joué.
Ouais, quoi. Qui n'ont pas joué du tout.
Non. Steve Marlène, dit Jérôme Thomas.
Oui.
Ah, ouais, oh, ouais, Jérôme. Ouais, ouais. Il n'y a pas un Michael Siani? Non. Marc Planus?
Non.
Non. Vas-y, dis-nous plutôt les noms, c'est rigolo de savoir que c'était des mecs qui étaient dans les groupes.
Corentin Martins?
Ah, ouais.
En 96.
En 96, ouais. Ouais.
Morgan Schneiderlin en 2016.
Parce que Deschamps, il n'arrivait pas à comment ça se passait.
Franck Sylvestre en 1992.
Schneiderlin ne l'a même pas fait rentrer, c'est dur. Hein.
Et dernier en date parmi les. Wissam Ben Yedder, en dernier Euro, il y était.
Ah oui.
Il a fait banquette. Ouais.
En revanche, les mecs qui ne jouent pas, tu les oublies. Hein. Tu oublies qu'ils étaient dans le groupe France. Hein.
C'est pour ça que je me suis perdu.
Parce qu'après, ils ont fait la fête dans le vestiaire, genre on a gagné. En fait, toi, tu ne te souviens pas du tout qu'ils ont gagné. Quoi.
Ouais, 98, tu te souviens tout le monde quand même, non? Même ceux qui n'ont pas joué.
Parce que c'est vraiment différent. Et en plus, 98, quasi. T'as vu,
tu peux te dire que 2018, tu ne te rappelles pas de tout le monde. Hein.
Ouais, c'est possible. 98, tu te souviens.
Non, 2018.
2018
même. T'as les 23. C'était 23
quand même, si.
Oui, même Benjamin Mendy.
De tout le monde.
Benjamin Mendy jouait.
Quasiment titulaire.
Ouais.
Il est remplaçant.
Ouais, il démarre, il sort.
Des Sidi B, des joueurs comme ça. Il y a une dernière anecdote, Xavier.
Sidi B, tu t'en serais rappelé?
Ouais.
Dernière anecdote, quel est le
en 2004.
C'est Kéler était là.
Quel est le point commun entre Lubo Penef, Igor Tudor et Mats Hummels?
Alors, Lubo Penef, donc le Bulgare, Tudor avec la Croatie.
Et Hugo et Mats Hummels.
Sur un euro, donc.
C'est un rapport avec le jeu de tête?
Non. Éventuellement.
Avec des buts, peut-être?
Oui.
Bah, contre la France?
Ouais.
Ils ont marqué contre la France?
Ouais.
À l'euro?
Ouais.
Ils ont éliminé la France?
Pas tout à fait.
Non, je vois pas.
Plutôt le contraire.
Ah, ils ont marqué contre la France et leur nation a perdu.
Ouais. Ils ont marqué contre leur camp pour l'équipe de France lors de l'euro.
Excellent.
Lubo Penef.
En 96?
Ouais. Lors du France-Bulgarie.
Comment il fait pour marquer contre son camp, je n'ai pas souvenir.
C'est un ballon aérien, il le dévie.
Ah
oui. Ouais.
Parce que lui, il était attaquant.
Ouais, il était.
Hummels, oui, demi-finale à Marseille.
Non, Hummels, ça c'est le France-Allemagne d'ouverture de l'Euro 2021.
Absolument.
C'est lui qui marque.
Oui, j'avais oublié ça, celui-là. Ouais. Oui, d'accord. Okay,
et Tudor, c'est à l'Euro 2004, le France-Croatie, qui finit à 2-2.
Une anecdote parmi 1000.
J'ai souvenir de l'Euro 2004.
J'ai beaucoup de souvenirs de l'Euro 2004.
j'ai pas cet Euro-là.
Gagné par les Grecs.
C'était extraordinaire cet Euro-là.
Ouais.
Vous en voulez une dernière?
Je me souviens
sujet,
du Portugal, de l'Angleterre.
France-Angleterre.
Tu te rappelles pas du meilleur joueur de cette compétition?
Quand je dis j'ai pas de souvenir, c'est...
Non.
Le meilleur joueur de la compétition?
Ouais, c'était pas Aristeas.
C'était Wayne Rooney,
non? Non. 2004.
C'est un Grec.
Zagorakis.
Le milieu de terrain.
Le milieu Zagorakis, ouais. Et d'ailleurs, il y a à ce sujet-là, vous me parlez des Grecs, allez, une anecdote pour la route. Quel est celui qui a pris le plus de cartons jaunes dans toute l'histoire de l'Euro?
Donc,
c'est un Grec.
C'est quoi, le mec qui a joué à Bordeaux après, là, non?
Non, c'est pas lui.
Je sais pas.
Le milieu et meneur de jeu.
Vas-y.
Qui est Karagounis. Karagounis a joué 13 matchs à l'Euro, enfin pouvait jouer 13 matchs à l'Euro, il en a joué 10, il a pris 8 cartons, il a été suspendu les 3 autres.
Assez fort quand même. Excellent.
C'était pourtant un sacré joueur. Hein.
Toutes ces anecdotes et beaucoup plus dans le magnifique bouquin.
Idir pose la question à quel Euro est né la Panenka, c'est 76.
Absolument, voilà. À l'Euro 76, d'ailleurs on en parle bien sûr dans le guide puisque c'est un événement très important.
J'ai eu l'occasion. 200 pages, plein de photos, plein d'anecdotes, plein d'infographies, ça c'est vachement bien.
Contre l'Allemagne en finale de l'Euro 76. Je le raconte, j'ai eu l'occasion de rencontrer Panenka dans une vie antérieure. Quand j'étais à France Football. Donc,
alors, voilà. Le truc, c'est que quand même.
Ah, il va nous remettre en retard pour le chapeau.
C'est ça qu'il faut dire. C'est le péno comme ça, comme on dit nous, Panenka. Ça, dans les autres pays, on n'appelle pas ça comme ça.
Ah bon,
c'est ça qui est... Mais non. En Italie, on appelle ça la cuillère.
Ouais.
Au Portugal, comme on dit.
Au Portugal, je sais pas.
Mais on dit pas Panenka non plus.
On dit un piqué, en fait. Stift.
Mais tu dis pas Panenka, c'est pour ça. Donc les journalistes français vont voir Panenka et dire ah, vous savez que chez nous, on dit Panenka tout, mais il y a que chez toi qui dit ça.
Ils savent pas.
C'est vrai, c'est une curiosité, ce truc.
Ouais, mais depuis, ça s'est quand même un peu étendu, même si effectivement le nom.
Ouais. Parce que les Anglais, ils disent Panenka.
Ouais. Alors les gars, non, il faut qu'on arrête, les gars. 23h21, parce que ça va être le bazar.
On va leur demander s'ils arrivent tous là. Comment ils disent chez eux.
Et juste avant, parce qu'on va faire les chapeaux des milieux de terrain, je voudrais juste prendre 30 secondes, parce que vous l'avez peut-être vu passer aujourd'hui, pour avoir un gros soutien apporté, de grosses pensées ce soir à notre confrère Olivier Ménard, journaliste de la chaîne L'Équipe, qui a été agressé, roué de coups à son domicile, ça s'est passé lundi. Il est bien évidemment arrêté, plusieurs jours d'incapacité totale de travail. Donc voilà, ce soir, je ne te connais pas Olivier,
moi
mais je t'envoie d'énormes pensées.
Gros soutien,
effectivement, c'est.
On a hâte, de te revoir à l'équipe.
Sympathique et absolument. C'est incroyable ce qui lui est arrivé.
Il est 23h22. Les chapeaux avec les drôles de dames. Avec vous tous au 32-16. N'hésitez pas à lâcher vos noms dans le chat de la chaîne YouTube @after-foot. Polo Breitner est là. Salut Polo.
Oh, bonsoir tout le monde.
Salut Polo. Julien Laurence.
Salut Thibaut, salut à tous.
Et on a également Fred Hermel.
Hola chicos.
Et Johan Crochet, salut Johan.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Comment on dit Panenka chez vous?
Panenka, le plus célèbre en séance de tir au but de Totti à l'Euro 2000.
Exactement, mais pas en Angleterre, on dit pas que c'est une Panenka.
Si, on dit Panenka aussi.
En Angleterre?
En Espagne, il y a même un magazine de foot qui s'appelle Panenka.
J'ai dit une connerie, alors moi j'ai perdu.
C'est pas la première, c'est la dernière, mon petit bon
chat. Ah, Fredo, on avait dit pas le travail.
Au Portugal, on dit pas ça. Et en Allemagne, on dit ça aussi, Paulin? Ça m'étonnerait en Allemagne.
Si, sincèrement, je crois que.
Mais ça s'est démocratisé.
Ça s'est étendu considérablement.
C'est-à-dire qu'avant 76, on le disait pas.
Alors, non, mais depuis, on le disait pas. Quand t'étais jeune,
on aurait dû le dire dans ce sens-là. Alors, les gars, les chapeaux, je sais que vous allez hurler, mais il faut qu'on avance.
Vivement le début de l'Euro.
Il faut qu'on les fasse. C'est dans deux jours, mon Polo, et je suis d'accord avec toi.
Ça voudra dire que les chapeaux sont finis.
Oui, mais en attendant, l'Euro n'a pas commencé. On continue ce soir, les milieux de terrain, et on a tout mis, les 6, les 8, les 10, en attendant de faire les attaquants. Donc, on va être efficace. On va commencer. C'est fort avec l'Italie. Je vais vous donner des noms. Si personne n'en veut, on va passer très vite. Mais là, je sais que celui-là va être dans vos chapeaux. Johan Barella.
Chapeau 1, on n'en parle plus.
Chapeau 2.
Ah. Oh. Polo.
Chapeau 2 aussi.
Ok, Julien, Polo, Fredo.
2. Chapeau 3.
3. Oh. Kevin.
Moi, chapeau 2.
Xavier, est-ce que
Barella. Le 2 aussi.
Chapeau 2.
Oh.
Barella arrive directement dans le chapeau 2. Çalhanoğlu, on est toujours à l'Inter.
3.
Chapeau 3 pour Johan. 4
pour moi.
Moi aussi.
4.
Hors chapeau pour moi. Hors chapeau.
Hors chapeau. Xavier,
3.
Chapeau 3. Donc pour l'instant, on est sur du chapeau 4. Chapeau 4 pour Çalhanoğlu. Kitarian de l'Inter.
Non.
Non.
Non. Pas là.
Non. Il a arrêté la sélection en plus. Ouais.
Voilà. Je rappelle, on est directeur sportif. On ne juge pas la saison de ses joueurs. On est directeur sportif et on se projette sur les saisons
prochaines.
Éventuellement
vouloir le relancer.
Voilà, par exemple. Fratesi de l'Inter, Johan.
Non.
Non. Est-ce que quelqu'un
on
en veut?
On peut aller vite sur l'Italie, moi il m'en reste plus qu'un de l'Italie.
Bah alors, est-ce que Fratesi pour personne? 4. Voilà, hors chapeau. C'est qui Johan pour toi?
Cop Miners.
Chapeau combien?
Chapeau 3.
Julien?
4 chez moi.
Je prends 3.
3, Polo.
Moi je prends 4.
C'est un néerlandais, non?
Ouais.
Ah oui, chapeau.
Chapeau néerlandais. Polo, il y a un moment, la blague va s'arrêter, non?
Mais tu vas la comprendre un jour.
Non, mais vous mettez pas Reinders pour le coup, néerlandais en Italie?
Ouais, j'ai hésité, mais non. Il a sauté de mon chapeau 4.
Bah, moi, je le mettrais bien dans le 4 parce que je trouve qu'il fait une belle saison.
Ok, et ben, à la pondération Coupe Miners et chapeau 4. Rabiot, personne n'en veut?
Non. Bah, chapeau 4 non. Quand même, moi.
Ouais, Fredo.
Rabiot, chapeau 4. Bah, chapeau 8 pour moi.
Ok. Bon, ce sera hors chapeau. Reinders, est-ce qu'il y a que Xavier qui veut Reinders ou pas?
Moi je l'aime bien, mais
il est hors chapeau.
Je l'aime bien, mais non.
Johan a dit qu'il le mettait 4.
Non, il a sauté de mon chapeau 4. Ah, il a fait 4 au début, mais après je l'ai fait. Il a sauté. Ok. Et puis dans mes chapeaux.
Je vous donne les autres
et
Italiens.
Le Atalanta, non, c'est pas Ederson, non.
Ederson, non, j'ai pas réussi à le faire rentrer non plus.
Ah d'accord. Bon bah écoute alors. Toi, tu le mettais, Daniel? Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre autour de cette table? Non. Il n'y aura pas d'Ederson. Okay. Personne
c'est
veut.
Un super joueur.
Un Loftus-Cheek.
Super joueur, mais on le met hors chapeau. D'accord. Ok.
Bah, Daniel, tu peux pas mettre plus de 8, 6, 8, 8 et 8, 10. À un moment donné, on a mis tous les milieux de terrain. Il y a 24 noms.
On a tout mélangé, ça va être compliqué. Voilà.
Ce soir, c'est l'élite.
C'est compliqué.
C'est l'élite.
Il
n'y
a que des cracks à moi dehors.
On s'est dit soit on fait ça et on finit les chapeaux, ou soit, comme ça arrive parfois, on s'arrête avec les milieux défensifs et on continue l'année prochaine. Donc, on s'est dit qu'on allait finir. En Italie, est-ce que l'un de vous a un autre nom? Je ne sais pas, un Paredes, un Pellegrini, un Zambo, un Guissa? Non, il manquera personne. Alors, prenons la direction de l'Allemagne, Polo. Florian Wirtz. Tu le mets dans ton chapeau 1. Hein. Ouais. Fredo.
Ah, on considère les milieux?
Ce soir, on considère milieu.
Ah, voilà. Déjà que c'était tassé, les chapeaux. Ouais, si en plus vous le mettez milieu, pour moi, va pas y arriver. Pour moi, il est attaquant. Quoi. Ouais,
pour moi, c'est quand même un milieu offensif de côté.
Milieu offensif.
C'est quasiment un
Franck Ribéry. Il est là ce soir. Ce soir, il est dans les chapeaux, les gars. Prononcez-vous.
Non, moi, je suis d'accord. Wirtz dans le chapeau 1.
Chapeau 1.
Du coup, vous mettez aussi Moussiala dans les milieux?
Ouais. Absolument. On va pas s'en sortir là.
Si, mais d'accord, mais moi je suis pas d'accord. Mmh. Mais bon.
Ouais. Pourquoi t'as pas envoyé un mail avant?
Exactement, fais le dire.
On aurait pu réfléchir un peu avant.
Je ne suis qu'un Hollandais, Polo.
Merci, Polo.
Ah ouais, ça j'ai compris. Ça.
Est-ce que Wirtz c'est chapeau 1 pour tout le monde? Du coup,
moi je m'attendais pas à ce qu'il soit là, donc je l'ai pas mis, mais bon. Oui, forcément.
Voilà, Wirtz chapeau 1. Moussiala.
Bah, ah oui, Moussiala,
chapeau 1, si t'es directeur sportif, c'est chapeau 1 dans ce cas.
Moussiala pour tout le monde.
Je l'aurais mis attaquant aussi.
Moi, deux chez moi. Il est deux
chez moi aussi.
Donc, moi aussi, Moussiala.
Et sinon, Ito, s'il se barre au Bayern, vous l'augmentez dans les chapeaux des défenseurs centraux ou pas?
Toujours pas en arrière, Polo.
Flo Gautreau, il va le découvrir peut-être.
Et Flo, il n'est pas là, il en prend une. Moussiala, il est en bas du chapeau 1 pour l'instant, parce qu'il y a pas mal de chapeaux
2. Mets-le dans le 2, il n'y a plus de place.
On va attendre. Xavi Simons.
Alors lui, c'est vraiment pas un milieu de terrain pour le coup.
Ouais, pour le coup, c'est un attaquant.
Oui, il est milieu offensif.
Non, mais lui, c'est. Il peut pas être dans les milieux de terrain.
Les gars, ce qu'on fait l'année prochaine, c'est qu'hésitez pas à cette liste qu'on a tous reçue vers 15h. Vous faites un petit répondre à tous et on s'en parle avant. Ça évite de mettre 3 quarts d'heure le soir même. Allez, Xavi Simons,
on pourrait vous envoyer les listes et après, nous, on peut rester chez nous, quoi.
Xavi Simons, c'est un Hollandais.
On est chez nous, Polo.
Garde-le pour demain.
Olmo de Leipzig.
Non, Daniel, chapeau 4.
Chapeau 4.
Plus de place.
Chapeau 0.
Moi, je ne le mets pas cette saison.
C'est hors chapeau.
Chapeau pointu.
Est-ce que Granit Xhaka?
Oui.
Xhaka, combien
je prends?
Tu le prends.
Tu
le prends.
Directeur sportif, tu prends Granit Xhaka aujourd'hui.
En 2024.
Et tu fais quoi? Tu joues l'Europa League alors? Tu joues pas la Ligue des Champions?
T'es champion d'Allemagne.
Forcément. C'est une bonne question. Est-ce que t'es directeur sportif?
Il est 23h29, on va pas avoir le temps de débattre de Granit Xhaka.
D'accord. En tout cas, tu le mets pas dans des chapeaux si t'es directeur sportif.
Toi, il est hors chapeau du coup, Kevin?
Ah oui, tous les jours.
Ok. Les drôles de dames.
Je joue pas la saison, on juge le futur.
Polo?
Chapeau 3.
Ok. Johan?
Non, une très belle saison, mais si je suis directeur sportif, je le prends pas.
Ok, Julien.
Moi non plus.
Il manque Fredo, je crois.
Hors chapeau, j'ai dit. Ouais.
Hors chapeau.
Daniel, il le prend. Hein.
Il est hors chapeau.
Évidemment qu'il faut le prendre.
Brandt de Dortmund. Polo.
Chapeau 4, Brandt.
Moi aussi, comme Polo.
Deux chapeaux 4. Est-ce que parmi les drôles de dames, on prend du Brandt?
Non.
Non, hors chapeau, hors chapeau.
Du Sabitzer.
3 inconstants.
Kevin?
Non.
Xavier, tu prends pas non plus, c'est hors chapeau. Zabitzer de Dortmund, justement. Moi, Polo.
Mais là, c'est fini maintenant. Même Polo, il trouve plus de place pour les autres. Hein.
Julien, il faut sortir des toilettes, là. On t'entend très mal.
T'es où, Julien, là?
Bah, aux chiottes.
À Berlin.
Ah, au chiottes à Berlin, du coup.
Non, dans ma chambre d'hôtel, mais je sais pas.
Ah, elle est vraiment petite, ta chambre d'hôtel. Ah, ouais. Filet quoi, un formidable.
C'est pas le best western.
Si c'était une grande chambre luxueuse, on n'entendrait pas comme ça.
Bon, en tout cas,
ce serait capitonné et tout ça.
En tout cas, on entend bien, ne tire pas la chasse.
Il n'y a pas de moquette, hein.
Ne tire pas la chasse.
Et vous êtes à combien dans la chambre, là?
Alors, les gars, et les gars, 23h30 sur RMC, les chapeaux. On va conclure l'Allemagne. Sabitzer.
On a dit quoi?
Bah, justement.
Moi, je mets chapeau, hein.
Chapeau de
Sabitzer.
Oui, j'adore Sabitzer.
Bonjour.
Mais je le kiffe, laisse-moi le kiffer.
Moi aussi, j'aime bien.
C'est un travailleur.
Sabitzer reste journaliste.
Kevin,
moi, je le mets 4.
Xavier 4, Kevin, non, hors chapeau.
4.
Fredo.
4, Sabitzer. T'es con, sur la tête ou quoi?
Je suis directeur sportif.
Mais en fait, tu répartis pas ton chapeau, tu prends que des milieux offensifs, toi.
Non, mais je mets Rodri en 1.
Ben Rodri, oui.
On va parler
alors, dans quelques instants. Bruno Fernandes, il est en dessous.
Mais de la vie.
Les gars, on comprend absolument rien. Pas tout ça en même temps, s'il vous plaît.
C'est l'after.
Sabitzer, ouais. C'est même les chapeaux de l'after. Sabitzer.
C'est puissance 1000.
Sabitzer, c'est 2 pour l'instant. Leimer du Bayern, Polo.
Il n'a pas été titulaire la première saison, la première partie de saison, je l'ai mis hors chapeau.
Hors chapeau, est-ce que quelqu'un veut du Leimer?
Non.
Est-ce qu'en Allemagne, Polo, il y a un autre joueur? J'ai encore des noms à proposer, mais que toi tu mettrais dans tes chapeaux, sinon on gagne du temps et on tourne cette page allemande.
Je n'ai pas la liste sous les yeux, donc je ne peux pas te dire.
Mio de Stuttgart.
Alors, si tu veux préparer l'avenir, Mio, c'est intéressant.
Ouais.
Stiller, de Stuttgart.
C'est le fils de Benoît Mio?
Tout son frère peut-être dans ce cas-là, mais il est jeune, Benoît Mio. Tu le mettrais quel chapeau? Est-ce que quelqu'un d'autre veut du Mio, du Stiller, de Stuttgart?
Le frère Mio, je l'ai mis hors chapeau, mais c'est vraiment intéressant en fait.
Bon, hors chapeau. Schlager de Leipzig, quelqu'un en veut?
Mais il est blessé.
Ok. Ouais. Larsson, Scheibi, Roll.
Mis que des zones. Larsson, je le mets chapeau 4 parce que lui, c'est l'avenir.
Ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut du Larsson? Ce sera hors chapeau. 23h32, ce sont les chapeaux de l'after. Les milieux de terrain avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec Fred Hermel, avec Johan Crochet.
On va pouvoir faire les attaques ensemble, on sera tranquille demain.
Paulo Breitner et Julien Laurence.
Vous avez vu la vitesse là que.
Les coachs.
C'est pas terminé. Dans un instant, on s'intéresse au milieu de terrain anglais avec Julien Laurence depuis sa chambre allemande. L'Euro dans deux jours, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h34, vous êtes sur RMC, l'after en direct jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, avec notre invité du soir, Xavier Barré, auteur du guide insolite et érudit de l'euro, et les drôles de dames pour les chapeaux qui continuent à deux jours de l'euro, qui continuent de manière efficace. Je rappelle que Julien Laurence est là en direct de sa chambre d'hôtel, petite chambre d'hôtel a priori, de Berlin, ce qui explique parfois la qualité sonore. On fait ce soir les milieux
Berlin,
de terrain.
Berlin. Berlin.
Ah, c'est vrai que c'est beau l'allemand. Les 6, les 8, les 10 ce soir, parce que demain on fera également les attaquants, les ailiers, ce sera Gilbert qui sera là, donc c'est sur lui que vous tomberez demain. Mais ce soir on continue donc nos chapeaux avec toi justement, Julien, l'Angleterre. Kevin De Bruyne, tu le mets quel chapeau?
Toujours chapeau 1 pour moi avant qu'il parte, avant que je le vende en Arabie Saoudite. Je le garde encore un tout petit peu, c'est encore magnifique à voir et à avoir dans son effectif.
Est-ce que quelqu'un ne met pas De Bruyne dans son chapeau 1?
Moi je mets le chapeau 2.
Chapeau 2, Fredo. Tous les autres, c'est chapeau 1. Kevin De Bruyne, chapeau 1. Bernardo Silva, Julien.
Je l'ai mis en chapeau 3. J'ai pas trouvé de place en 2. 1, c'est trop haut. C'est un joueur exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Il peut jouer partout. Il est fantastique. Il a le bon état d'esprit. Mais même en chapeau 2, j'ai pas trouvé la
joueur
place. Donc, malheureusement,
il
n'y
a pas la place dans 1 et 2 pour un joueur exceptionnel.
Ah oui, parce qu'il y a des joueurs aussi exceptionnels dans 1 et 2. C'est pareil.
Donc, chapeau 3 pour Julien. Johan, Bernardo Silva.
2. Chapeau 2.
Polo.
Moi, j'ai le 2, moi.
Ouais. 2 aussi.
2 aussi.
2, Fredo.
2-2.
Eh bien, c'est chapeau 2 pour Bernardo Silva. Rodri, on est toujours à City.
Chapeau 1, là. La chapeau 1, même pas.
Là, ouais, ça se... Voilà. Ça se discute pas, là.
Ça se discute
chapeau
pas.
Chapeau 1, tout seul. À son poste.
Meilleur milieu défensif du monde, quoi. C'est
ouais, mais il en aura quand même 5 autres. Foden.
Ah, Foden, il est milieu, maintenant.
Non, Foden, c'est un...
Vous le mettez demain? Demain.
On le met demain. Demain, parce que sinon, on n'aura plus de place.
Odegaard, d'Arsenal.
Ah,
Julien.
Chapeau 2, j'ai mis chapeau 2. Ouais. Moi j'ai mis Foden chapeau 1 parce qu'il était dans la liste, donc
ouais,
j'ai
pareil.
Mis Foden, donc
remplacez-le, faites un switch pour demain.
À ce moment-là, moi je mets Moussiala,
je mets Bernardo en chapeau 2 alors et
bah oui. Et Odegaard pour moi, c'est vraiment tout en haut du chapeau 2, hein. Je suis pas loin du 1. Hein.
Chapeau 2. Johan.
Ouais, je suis d'accord.
Chapeau 2.
Polo.
Chapeau hype, je l'ai pas mis.
OK, Fredo.
J'ai envie de gagner, donc il n'est pas dans mes chapeaux. Voilà, c'est très beau à voir, mais ça ne gagne pas.
Kevin.
Oh là là.
Ça ne veut rien dire. C'est quoi ce
phrase? Oh là là.
Tu veux gagner, donc tu le prends pas.
Est-ce qu'on pourrait inventer pour les chapeaux le carton jaune ou la personne qui dit une énormité et on lui coupe le micro 5 minutes?
J'aimerais bien qu'on garde Polo quand même toute l'émission.
Je t'en dis plein tout de suite, Manu.
Mais si vous voulez, on dit tout ce que vous voulez qu'on dise et puis on donne pas d'avis. Mais je veux dire, on est là pour ça.
Prenons, tu vas pas chouiner, non? Tu vas pas chouiner, Odegaard, c'est un super joueur.
Odegaard, c'est un super joueur.
Non, mais l'autre, il a gardé Odegaard qui a 16 ans au Real Madrid.
Il est parfait à Arsenal, il ne gagne pas.
Et il sera chapeau 2 de l'after.
C'est encore pire, vas-y.
Tiens, resto Arsenal, Declan Rice, les gars. Declan Rice, Julien.
Raj, j'ai mis chapeau 3.
Chapeau 3.
Pareil.
Johan, pareil, Polo. Ah,
vous avez mis que les offensifs dans le.
J'ai pas de Clan Rife.
Ok. Fredo.
J'ai pas place pour lui.
Polo, il a ni les Anglais ni les Hollandais.
Fredo, tu l'as pas mis non plus.
Moi, je mets deux
Clan Rife. Kevin.
Ah, des Clan Rife, je vais le mettre deux aussi. Hein.
Xavier, deux aussi, ça fait du 3. Du 3 pour des Clan Rice. Jorginho.
Non.
Personne n'en veut.
Non.
McAllister.
Plus maintenant.
Ah, Liverpool.
Chapeau 4 chez moi, McAllister.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres qui le prennent?
Non, je vois 4, moi.
4?
Ah, moi, c'est 3, McAllister.
Ah ouais, moi, c'est 3. Ouais.
3, 4. Ouais. Et ben, ce sera 4 pour McAllister. Szoboszlai de Liverpool.
Non, ce sera un chapeau 5 ou un chapeau 6, mais là, dans les 4, non.
Ok, pareil. Il ne rentre pas. Douglas Luiz, Aston Villa.
Moi, j'aime bien.
Chapeau 4.
Moi, j'ai plus de place. Là.
Moi, j'ai chapeau 4 aussi, Douglas Luiz.
4 pour moi aussi.
Ok.
Ouais.
Pour l'instant, on lui met chapeau 4. Si on s'intéresse à Tottenham, Madison.
Non, Madison, non.
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 Bettencourt.
Non plus.
Non.
Enzo, Fernandez, Chelsea.
Ah oui, oui, moi je le relance.
Parce qu'on compte sur lui toujours, on croit en lui.
Moi je le relance. Après, il a fait un mauvais choix de club, il n'est pas là où il faut. Mais moi, je vais le chercher, je lui dirai viens dans mon club, et dans mon club, t'es chapeau 1 ou 2, quoi.
Et du coup, 1 ou 2.
Je suis d'accord, moi je relance aussi. Ouais.
Alors,
chapeau
Julien.
4 chez moi, mais tu relances le chapeau 4.
Chapeau 3.
Quoi.
Chapeau 2, je le mets.
Moi c'est chapeau 3, mais vers l'avenir, quoi.
Ouais, 3, c'est 4. Bien.
4, 2, 3, 3. C'est 3. C'est 3. Mm. C'est 3 pour Enzo Fernandez. Caicedo.
Ah putain.
4.
Non, il y a trop de talent.
Ok. Palmer. Paul Palmer.
Palmer, chapeau 4. Pour moi, la saison qu'il a faite.
Ouais.
Ouais, gros talent.
Ouais, Palmer, chapeau 3, même si t'es directeur sportif. Ouais. C'est pas loin du chapeau 2. Hein.
Polo?
Non.
Johan?
Il y a quand même beaucoup de milieu de terrain dans le foot.
Non, moi, entre Caicedo et Palmer,
je suis submergé par les noms, là.
Xavier,
Palmer, j'ai une place en 3.
Palmer, c'est pareil, hein. C'est un joueur très offensif, quand même.
Bah ouais, c'est
4 pour l'instant. Pépite, Maïnou.
Ah, Pépite. Chapeau 4, parce que c'est encore jeune, hein. Faut convaincre ton propriétaire.
J'attends l'année prochaine.
Chapeau 4.
L'année prochaine pour Daniel, Kevin.
Non, moi je l'ai pas.
Tu l'as pas, Xavier, tu le prends.
Maïnou, faut, ça demande confirmation.
Tu le prends pas. Johan.
Non.
Fredo.
On attend.
Ok. Polo.
Non.
Eh ben, on attendra l'année prochaine pour Maïnou. Est-ce qu'il y a de la place dans vos chapeaux pour Bruno Fernandez, Julien?
J'ai mis en chapeau 3, moi, Bruno. Ça reste quand même exceptionnel, hein, quand il veut.
Johan.
Chapeau 2. En bas de mon chapeau 2.
Fredo.
3.
Polo.
Chapeau 2.
Moi, je le prends pas, moi.
Non, moi,
oui, mais moi il m'a fatigué, ce joueur.
Non, moi, Bruno Fernandez, c'est chapeau 1.
Oh.
Ah, si je prends un club, je le prends.
Ouais. Moi, je suis deux chapeau 2. Ouais.
Chapeau 2. Oh. Bah, ça sera chapeau 2, hein, je crois.
Tu regardes pas la. T'as pas regardé la finale de la CAP, toi?
Non, c'est un super joueur.
C'est quand il veut.
Il a pas un peu la légende du grand joueur contre les petites équipes?
Ah oui, c'est vrai que moi,
il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Ouais. Mais quand même,
ça veut rien dire sur deux phrases et
ça reste très fort.
Bruno Guimarães.
Ça reste très fort.
Oh, il est chaud, Fredo, ce soir. Bruno Guimarães, Julien.
Je l'ai mis chapeau 3, tout en haut, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Mais quel joueur. Il adore le Kinder, il adore le chocolat, mais quel joueur de foot, incroyable.
Ah ouais? Il mange trop de.
Ah, il aime ça, il adore les Kinder Country.
Le Country, il préfère
le Country, carrément.
Country, ouais.
Dans la collection Kinder, c'est
pas le meilleur.
C'est celui que j'aime le moins.
Ouais, non, c'est pas le meilleur.
Moi aussi, ouais. C'est pour ça que ça m'a déçu un peu, mais ouais, il adore ça.
Allez, on fera une tier list une autre fois.
Il y a un peu de blé, là, qui
laisse dedans. Il y a des snacks.
Ouais, parce que ça laisse comme goût dans la bouche, là. C'est dégueulasse.
Passe dans la libre antenne pendant l'Euro, Daniel.
T'as un carton qui t'attend à la sortie.
Guimarães, chapeau 3 pour Julien. Johan.
En haut de mon chapeau 4.
Polo.
Bah, il était au 3, moi.
Fredo, moi aussi, 3.
4.
Bah, 3, c'est bien.
C'est bien, 3.
Et bah, c'est 3. C'est 3 pour Bruno Guimarães. Paqueta.
Bah, c'est 3.
Elle est en prison, donc.
Non, 3,
chapeau prison.
Chapeau prison.
Ouais, ah ouais. Oui, c'est pas possible de miser sur un joueur qui risque d'être suspendu à vie, quoi.
Okay. Hors chapeau. Tonali.
Moi, je ressors.
D'ailleurs, on en est où? On en
moi,
est
sinon,
où,
je ressors Tonali, je relance. Hein.
Tonali, c'est pareil. Chapeau prison.
Ah non, lui, il sort. Ça y est, il sort ah, justement. L'autre, il va rentrer.
Mais il va peut-être y retourner, Daniel. Il y a un risque qu'il y retourne quand même.
Pourquoi il va y retourner?
Bah, et s'il replonge dans les paris?
Mais il va pas replonger.
Il y a des nouvelles
sur Paqueta. Moi, je serai guéri.
Julien, il y a des nouvelles sur Paqueta?
Non, on attend toujours, Fredo. On attend.
C'est... Hors chapeau, donc. C'est... Ouais, ouais, bah Tonali, les gars. Tonali. On en parlait dans le... un peu dans le même ordre.
Moi, je le sors de tôle et je le relance et je lui dis t'arrêtes tes conneries et je te mets chapeau 3 si t'arrêtes de faire le con.
Chapeau 3. Est-ce que quelqu'un l'en veut dans ses chapeaux ou il n'y a que Daniel?
Non, on va le laisser dans, dans le club de Daniel.
Non, moi, ouais. Je vais le laisser à la Française des Jeux, moi.
C'est quand même un super joueur, hein.
Ouais, oui, je sais, mais.
Le football, c'est aussi l'extra sportif, quand même.
C'est vrai, c'est vrai.
Il a le droit de se racheter. Bah, il va se racheter en chapeau 6 et puis on verra.
Non, t'as raison.
Casemiro,
t'as raison.
Est-ce que l'un de nos directeurs sportifs,
fini, il était chapeau 1 il y a deux ans.
Chapeau Arabie Saoudite, Casemiro.
Ouais, mais c'est terrible de dire que Casemiro est hors chapeau, quoi, à son âge.
Ouais,
mais
c'est terminé.
Et encore une fois, le Real.
Après, il a pris beaucoup d'argent.
Et encore une fois, le Real a fait le bon choix.
Grosse de Brighton. On a bientôt fini l'Angleterre. Grosse de Brighton.
Non,
non.
Chapeau vieux.
Aisé de Crystal Palace.
Non. Ah, c'est un beau joueur, mais non, il a pas la place là.
Non.
Est-ce qu'on fait une pause tout de suite,
Jérôme? On n'a pas le temps de faire la pause.
Bah, si.
Il y a les coachs à faire aussi.
C'est
l'alerte.
C'est l'alerte, est-ce que j'ai retrouvé la feuille? Faut envoyer. C'est quoi déjà qu'il faut envoyer? Euro au 7-32-16. Et oui, Abil, parce que c'est le nom de la compétition qui débute dans deux jours. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer Euro par SMS au 7-32-16 pour assister à France-Pays-Bas. Vous avez 5 minutes pour jouer à partir de maintenant. Petite pause donc. Et dans un instant, avec Daniel Rio, Kevin Diaz, les drôles de dames et notre invité ce soir, Xavier Barré, on conclut les chapeaux des milieux de terrain. Les 6, les 8 et les 10 avec nos Espagnols et nos Français. À tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrand.
Et c'est les chapeaux, c'est le bazar, mais c'est pour ça qu'on les aime. Daniel Riolo, Kevin Diaz sont là ce soir. Xavier Barré, notre invité également, est là. Plus toutes les drôles de dames, les milieux de terrain au programme ce soir à deux jours de l'Euro. Bah oui, fallait qu'on avance, faut qu'on avance. Les 6, les 8, les 10 ce soir, on joue au directeur sportif qui on prend dans notre club la saison prochaine, les chapeaux de l'after. Demain, on conclura avec les attaquants autour de Gilbert. Direction l'Espagne, Fredo, on est toujours sur YouTube, la chaîne de l'After, où j'ai vu passer un message, on dit tous les milieux du Real, c'est Jonathan dans le chapeau 1. On va commencer par Valverde.
Bah, chapeau 1. Le joueur qui a le plus joué au Real cette saison, champion d'Europe, champion d'Espagne.
Johan, une fois, Johan deux fois.
C'était quel joueur? J'étais en train de checker
Valverde.
Ma liste.
On était en train de regarder.
Valverde, moi, c'est chapeau 2.
L'Euro 76.
Valverde, les gars, c'est chapeau 2. Ah, vous êtes dur, hein?
Ouais, moi aussi.
Moi, je le mets 1, Valverde.
Ah, bah, moi, Valverde, c'est tout en haut du chapeau 1. Hein.
Moi, c'est 2. Il est jamais blessé, il est tout le temps
le là. Gars, le gars, il joue partout au milieu, il joue ailier.
Polo, c'est toi qui vas faire basculer l'avenir de Valverde entre le 1 et le 2.
Pour moi, c'est le joueur le plus intéressant de l'année, mais enfin depuis plusieurs années, et d'Europe, par son positionnement. Il peut jouer partout, etc. Je l'ai mis chapeau 2.
D'accord. Ah bah. C'est bon, je m'attendais que tu le mettes vraiment tout en haut du chapeau. Je le mets chapeau 4.
Ah, non, mais Valverde me passionne, mais je ne suis pas sûr qu'il soit dans un 11 théorique dedans.
D'accord.
Mais bon. Il joue tout le temps en réalité.
C'est chapeau 2 pour l'instant.
Que Ancelotti utilise le plus.
Pour Valverde. Les gars, Camavinga, Fredo.
Ouais, Valverde,
pour moi, c'est chapeau 2 et ça va bientôt être chapeau 1. Il est un joueur extraordinaire. Moi,
Polo.
Je suis fan absolu.
Camavinga.
Camavinga, c'est 1, moi, déjà.
Johan.
2.
Julien.
3.
Kevin.
4.
Hors chapeau. Ah, 4, oui. Daniel. Camavinga.
Bah, quand même, chapeau 3 ou 4, quoi. Déjà, il est dans l'équipe championne d'Europe, il joue.
Oui,
déjà, il pas déconner quand même, quoi.
Oui, là, pour l'instant, c'est du 1, du 2, du 3. Vous aviez...
Moi, je le mets 4 parce que Tchouaméni est 3, donc, ouais.
Qui a mis Tchouaméni dans le 3?
T'as mis Tchouaméni devant, avant Camavinga?
Ah, moi, je préfère Camavinga.
J'avais très dit, ni devant Camavinga, ouais.
Ah, non, c'est pas possible.
Donc, Daniel, 3 ou 4 Camavinga?
Sur cette année, peut-être pas, mais.
Moi, j'aimais bien votre invité jusqu'à Tchouaméni.
Tiens, bah, justement, parlons-en de Tchouaméni. Tu le mets, Xavier, tu le mets où?
Moi, je le mets dans le 3.
Le 3, Fredo.
Moi, je mets dans le chapeau 4.
4. Johan.
4.
Julien.
Moi aussi, 4.
Ouais, tout
3
en bas,
aussi, moi, j'ai mis comme vous aviez.
Tout en bas. Polo.
Je l'ai mis hors chapeau parce que c'était l'un de mes prospects les plus intéressants et il me déçoit.
Aïe, aïe, aïe. Il est déçu.
Je suis d'accord.
Voilà.
Daniel, t'as dit quoi, toi, Tchouaméni?
En bas du 4, hein, vraiment.
Ouais, bah, il est en bas du 4, Tchouaméni. Gavi, on passe au Barça.
Alors Gavi, moi je l'ai mis chapeau 3 parce qu'il a recouru, parce qu'il s'est fait les croisés cette saison. On va voir ce qui va se passer, mais s'il se remet bien, chapeau 3 sans problème. Ouais.
Johan,
je n'ai pas trouvé de place.
Julien.
Ah, c'est 2 chez moi. Moi j'ai un bon staff médical, moi, et je vais le remettre sur pied. C'est un joueur incroyable, donc chapeau 2.
Il a commencé à courir aujourd'hui. Hein, donc,
j'ai de l'oseille, donc j'attends que les prix montent.
Donc tu le prends
on
pas
veut pas cette année. Ben non, okay. Il est blessé, donc j'attends. Je prends pas les joueurs blessés. Moi.
Daniel,
bah, je sais pas, effectivement, tout est blessure, pas blessure, je reviens, pas 4.
Kevin ?
Non, moi, hors chapeau.
Gavi, je prends pas non plus.
Ouais, ouais. Bah, allez, moi non plus, je suis comme eux.
Bon, bah, écoute, c'est 4 pour l'instant.
Daniel, c'est le président qui change vite d'avis. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme je te prends comme recruteur, tu vas vite me convaincre.
Directeur sportif, c'est bon ?
Non, recruteur, exagère pas non plus.
je suis déjà directeur sportif.
Pedri, les gars, Fredo, Pedri.
Alors, malgré des blessures musculaires à répétition, c'est chapeau 1 parce que.
J'ai peur, moi, que ces gamins, ils les ont tellement fracassés qu'ils soient tout le temps blessés.
Mais Pedri, t'as envie d'y croire quand même parce que quand il est en forme.
Mais j'ai l'impression qu'ils sont en carton, les mecs.
Ouais, c'est moi, je préfère 100 fois Valverde que Pedri. Hein. Je suis désolé.
Ah, c'est pas le même.
Beaucoup plus fiable.
C'est solide.
Et par contre, j'adore Pedri. Mais...
Donnez-moi votre chapeau pour Pedri, les gars.
Pedri, c'est 1.
Pour moi, c'est 1.
Ok, Xavier, 1.
Ouais. Moi, c'est 3. Trop fragile.
3, ouais. 3. Fredo, tu me l'as donné, Johan.
J'ai 1, ouais.
Chapeau 1, j'adore.
Julien.
Chapeau 2, moi, tout en haut du chapeau.
On fait quoi avec les vieux Kroos et Modric ? On élimine parce que vieux, comme
et
ça.
Le Barça, je déclasse, quoi, forcément. Donc, Pedri, il descend, quoi. Chapeau 3.
Chapeau 3, et ben, ça fait chapeau 2 à la pondération, comme dit le boss.
D'accord qu'on ne peut pas recruter Toni Kroos, il arrête sa carrière.
Oui, on peut recruter, mais pas pour jouer au foot, quoi. Donc, c'est fini.
Non, mais toi, t'as un club en MLS, toi, Daniel. Prends-le chez toi en MLS.
Non, il arrête, même la MLS, il arrête.
Il a le Las Vegas FC, Daniel.
Il arrête tout. Donc, et pareil pour Modric, il va arrêter aussi.
Exactement. Mais Modric, il continue à.
Oui, mais il a un rôle secondaire.
De Jong, les gars.
De Jong, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, sauf qu'il y a souvent des embrouilles avec lui, on ne sait jamais. Là, il est blessé, il fait pas.
Non, mais chez moi, il n'y aura pas d'embrouille avec De Jong. Il se tiendra bien, il sera à carreau, il est chapeau 1.
Mais pour moi, ça reste chapeau 2. Pas chapeau 1, parce qu'il y a quand même des petits problèmes de blessure, mais chapeau 2.
Okay. Johan.
Chapeau 2.
Polo.
Oui, pas.
Julien.
Chapeau 1, moi, j'adore.
Bien sûr, Frankie De Jong, chapeau 1.
Xavier.
De Jong dans le 2.
Dans le 2, et ben ça fait. On est tout en.
Daniel, il n'a pas dit.
Ici, il a dit chapeau 1.
Chapeau 1.
Mais non, mais je suis sur Polo qui est en braque. Et Hollandais, c'est un truc.
Le 1, tout en bas du 1.
J'adore.
Ça se mange, les Hollandais.
Tout en bas du 1 pour De Jong.
C'est comme les croissants au petit-déj, c'est pareil.
Est-ce que Alex Garcia de Gérone, Fredo, tu lui trouves une place dans tes chapeaux?
Oui, chapeau 3. Et d'ailleurs, il est prétendu par. Il est suivi par beaucoup de clubs européens, dont le Bayer Leverkusen. Ouais. Donc, c'est une valeur intéressante.
Les drôles de dames, est-ce que quelqu'un d'autre est intéressé? Non. Autour de la table?
Non.
Ce sera hors chapeau. Zubi Mendy.
Très bon joueur, mais hors chapeau.
Merino, Real Sociedad.
Hors chapeau.
Est-ce que t'en as d'autres? De Paul, de l'Atlético.
Je laisse dans la chambre.
Merino, j'aime bien.
Ouais.
Oh, pas mal.
T'as dit quoi? J'ai pas entendu.
Il le laisse sur son sommier.
Très bien. De Paul.
Non, Marco. Ouais. Il y a Marco Llorente,
tu le prends?
Llorente, c'est pas mal.
Alors,
moi, je le garde de chapeau 4 parce que c'est un mec dans une équipe intéressante.
Ah ouais, Llorente, j'aime bien.
4 aussi.
Même si elle était écartée de la section, mais.
Et Julien?
Non, j'ai plus de place pour Llorente.
Non, Llorente, non.
Polo?
Non.
Compliqué.
En plus, son lit, il est trop cher.
Et Bellingham, on n'a pas compté que c'était un milieu alors?
Bellingham, je l'ai sauté.
Ah, tu l'as oublié,
oui,
déjà.
Je l'ai oublié.
Bellingham, chapeau 1.
Ça va vite, chapeau 1.
Bellingham, je crois que oui.
Voilà. Tout le monde.
Voilà.
Polo, Bellingham, chapeau 1.
Je suis pas persuadé. Bon, déjà,
Polo, il est constant par rapport à tout ce qu'il a dit l'an dernier.
Tactiquement, je pense que je vais le faire reculer.
Ouais.
Et donc, je suis pas persuadé qu'il flambe aussi bien que c'est.
Mais au Real, il va reculer la saison prochaine avec.
Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, en fait.
Et on verra. Et en tout cas, là, il est chapeau 1. Oui, pour toi, mais du coup.
Et 2.
Oui, ah, d'accord, bah 2 alors. Voilà. Non, ce sera 1. Est-ce que Fredo, t'as d'autres joueurs? Ah, si, il y en a qui arrivent. Fredo, l'Espagne, on a fini?
Non, il y avait Alex Baena et Isco qui sont chapeau, je veux dire.
Ah oui, bah voilà, donc ouais, c'est ça. On a terminé. Si, bah, Portugal, t'as joué au Neves?
Voilà, quand même. Moi, j'ai joué au Neves, moi. Chapeau 3.
Il était demandé dans le chat aussi, les gars. Chapeau 3 pour Kevin. Qui...
Ouais, chapeau 4 chez moi.
Ouais. Moi, chapeau 4 aussi.
Il était au 4.
Ok.
Ouais.
Xavier?
Ouais, 4. C'est un bon joueur. Ouais.
4 pour jouer au Neves. Est-ce que vous en avez d'autres au Portugal, les gars?
Non, après.
Non. Passons en France. J'ai pas mal de noms.
Ah, mais vous avez fait la liste la plus longue pour les joueurs de Ligue 1. Non, mais
ils ont même mis des joueurs de Ligue 2.
C'est ridicule, quoi.
N'importe quoi.
Au niveau des droits télé, là.
Il ne sort pas plus de 5 noms hein, dans cette liste. Bah, oui. Très bien.
Non, mais il n'y en a pas beaucoup plus que 5.
Moi, je mets Vitinha, chapeau. Hein.
J'en ai une trentaine. Voilà, Vitinha.
Oh, chapeau 1. Non.
Non, chapeau 3.
Ouais.
4. 3 aussi.
Chapeau 2. Vitinha, attends. Polo. Non, j'ai même pas.
Tu l'as pas, attends, Xavier?
Vitinha, 3, oui.
3, donc à la moyenne, on a, j'ai du 1, du 2, du 3, ça va, 3 pour Vitinha.
Être dans une équipe qui est.
Oui, c'est un bon joueur.
Qui joue la Ligue des Champions et qui a été bon en Ligue des Champions, c'est pas un bon joueur, ok?
Ouais. Pas la question de pas être un bon joueur, mais t'es pas dans les 12 meilleurs milieux de terrain d'Europe, là, quand même.
Non, mais tu peux faire un pari aussi. Pour le pari, c'est
moi, je pense que c'est un gars qui va progresser et ce qu'il a montré.
Chapeau 3, c'est bien.
C'est bien.
Il est chapeau 3 ce soir.
Dans les 16 meilleurs milieux.
Je pense que 2, c'est bien.
Dans les 18 même.
Est-ce que les directeurs sportifs que vous êtes prennent, et si oui, où, Zahir Emery?
Non.
Non.
Non. Moi, oui, chapeau 4 aussi.
Il y a un mec du PSG, le dit Freddy. Ouais.
Bah, non, mais c'est vrai.
Ouais, t'es un directeur sportif ou t'es un fan?
Pourquoi tu prends pas, pourquoi je prends pas
Zahir Emery? Je suis surpris, pourquoi un nom aussi définitif?
Bah, parce qu'il a 17 ans.
Parce que par rapport aux 24 noms qu'il a, et il a 18 ans, je peux attendre 2-3 ans avant de me soucier de lui, c'est bon.
Il a 17 ans.
Vitinha est largement devant encore.
Est-ce que, Fabien de Ruiz, personne n'en veut?
Non. Est-ce que tu peux demander si on veut Enzo Lefebvre?
Est-ce que vous voulez Enzo Lefebvre?
Non.
Est-ce que vous voulez Frankowski?
Est-ce que vous voulez Frankowski?
Moi, j'adore. Bah,
c'est un défenseur.
C'est un piston.
Ouais, il joue plutôt piston. Désiré Doué, pépite de notre football, de notre championnat.
Pour l'instant, il a joué qu'en Ligue 1, donc je ne peux pas savoir.
Donc tu le prends pas?
Non.
Kevin, Xavier?
Franchement, Désiré Doué, je le mets en bas de mon chapeau 4 quand même.
Ouais.
Je suis directeur sportif.
Et le mec, il t'a montré quoi? Qu'il a enflammé la défense de Reims?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité.
Les drôles de dames, est-ce que Désiré Doué vous intéresse?
Non, chapeau 5.
J'ai cru comprendre qu'il intéressait certains clubs en Allemagne. Mais j'attends qu'il
annonce. Il est intéressant, mais pas de place dans le chapeau.
Oh, les gars, vous êtes durs avec ma Ligue 1 ce soir, laisse tomber.
Bah on peut arrêter là, il n'y en a pas d'autres de Ligue 1.
Ça fait pas rêver.
Il y a Ligue 1, on parle du championnat qui ne trouve pas de diffuseur.
Je vais être montré sur YouTube. Si tu disais la Ligue 1 YouTube.
Les gars,
prochain, ils vont être sur YouTube.
Merde, j'avais une super anecdote à raconter en parlant de droits télé, j'ai oublié.
Quoi, alors attends, on finit les chapeaux, si on garde le temps, tu l'as fait. Bentaleb, personne veut Bentaleb,
absolument. Non, mais arrête avec ces noms là, ne sont pas les mêmes.
Il n'y en a pas d'autres, c'est fini les chapeaux.
C'est fini, ça y est.
Arrêtez, il y a Golovin encore qui est là.
À demain.
Golovin.
Non,
t'en as deux éventuellement pour le chapeau.
Personne veut Golovin. Non, mais.
On peut faire les coachs là en deux minutes là.
T'en as deux pour le chapeau 4.
Youssouf Fofana, notre international.
C'est Cacré.
Mais arrête là, t'es pas sérieux là, t'es en train de troller.
Golovin. Non, mais vous êtes sérieux.
Quel chapeau 4
avec des meilleurs du
24 milieux de terrain, tu me parles de Cacré, qui est 6ème de Ligue 1.
T'as vraiment dit Cacré là?
Oui, il a vraiment dit Cacré.
Pour l'avenir.
Et Andy Diouf, il est remplaçant à Lens. On est sorti Andy Diouf.
Tiens, les gars, juste avant de conclure, est-ce que vous laissez une chance à ceux qui sont partis dans les pays du Golfe? Est-ce que Verratti chez quelqu'un?
Mais si t'arrives ce soir là.
Non, mais il est sous.
Est-ce que N'Golo Kanté a encore un avis?
Thibaut, il nous reste une minute.
Brozovic. Non, bon. Le chapeau 1, les gars, pour pouvoir faire monter quelqu'un. On a Virt, De Bruyne, Rodri, De Jong, Bellingham. Il faut faire monter quelqu'un parmi Barella, Sabitzer, Bernardo Silva, Moussiala, Odegaard, Valverde, Pedri.
Barella. Moi, c'est Valverde tous les jours.
Valverde, il n'était pas dans le 1?
Non. Bernardo Silva. Oh
là là. C'est Valverde. Donc là, chapeau 2, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Il faut faire monter du 4 vers le 3 parmi Çalhanoğlu, Kop Miners, McAllister, Douglas Luiz, Cole Palmer, Tchouameni, Gavi, Joao Neves.
Il y a vraiment des noms bizarres. Il y a des noms que je valide pas.
Supprime-le, le chapeau 3, il n'est pas beau.
Non, non, on garde.
Supprime-le, il n'est pas beau.
T'es obligé de le prendre.
Les gars, vous faites monter qui? Cole Palmer?
Non.
Allez.
Ouais, moi, je suis vraiment embrouillé là.
C'est Cole Palmer qui monte.
Ouais, ça va pas, les chapeaux, ça va pas. Faut recommencer.
Et du coup, attends, on va tout recommencer, évidemment. 1, 2, 3, 4.
Arrête, Polo, ils sont capables.
Et il faut en enlever un. Il faut en enlever un du 4. Çalhanoğlu, Kop Miners, McAllister,
Douglas Luiz. Si vous voulez faire les chapeaux, vous pouvez les
enlever. Çalhanoğlu, il a 35 ans.
Douglas Luiz, enlève Douglas Luiz.
Non, enlève Çalhanoğlu, il a 35 ans.
Çalhanoğlu, 35 ans.
On enlève Çalhanoğlu.
Non, mais Douglas Luiz, c'est un.
T'es où à Berlin? Juju.
C'est terminé pour les chapeaux.
Je suis. Dans le centre-ville, au Soho House. Viens me voir, Polo.
Ouais. Yeah.
Ah oui, parce que Polo est déjà, Julien est déjà arrivé à Berlin pour l'Euro et on vous retrouve dès demain et à partir de vendredi pour ce mois de folie qui débute. Merci les drôles de dames. Ciao Julien.
Ciao Polo. Merci à l'invité.
Fredo. Ciao. Salut. Johan, salut les gars. Ciao. Merci Xavier. Ciao. Je rappelle le bouquin Guide insolite et érudit de l'Euro. Merci d'être passé Xavier. À très vite.
Merci de votre accueil.
Merci Kevin. Merci Daniel. T'as pas l'anecdote des droitiers? On dit qu'on a le temps. Non, elle est trop longue, Daniel. Ton anecdote ou pas?
Non,
c'est trop long.
Demain, dans le feuilleton de demain.
Le feuilleton de demain avec Gilbert qui sera de retour.
Elle concerne ton ami Jean-Pierre Caillot.
Ah, Jean-Pierre Caillot demain avec Gilbert. Et demain, vous allez finir les chapeaux.
Jean-Pierre Caillot, le laquais. Autrement appelé. Voilà.
Ça s'appelle un beau teasing. Et demain, les chapeaux avec. Il y aura dedans les attaquants, les ailiers. Vous allez râler, mais c'est Gilbert qui sera là et ça fera du bien. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, tout le monde. Ciao.
RMC, l'after foot.